7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Nikos.
Nous sommes le mardi 20 novembre et un visage à la une de toute la presse ce matin, celui de Carlos Ghosn, le patron de Renault-Nissan, arrêté hier au Japon pour fraude fiscale. Vous entendrez la colère des salariés dès le début du journal de 7h. Et puis Nicolas Barret, qui vient de nous rejoindre dans le studio, connaît bien Carlos Ghosn. Ses informations exclusives à partir de 7h10. L'autre grosse info du jour, c'est le blues des maires de France. Leur congrès annuel s'ouvre aujourd'hui à Paris. Mais l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Un maire sur deux dit ne pas vouloir se représenter en 2020. Des maires qui craquent. Ce sera notre enquête à 7h20 dans Europe 1 va plus loin. Et à 7h40, on y reviendra aussi avec Jean-Michel Apathy. 8h15, la réaction du président de l'Association des maires de France, François Barouin, qui sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara. Réveillez-vous tranquillement, prenez votre temps. Attention, vous avez entendu Laurent Cabrol des risques de neige de la Bourgogne à la région lyonnaise. Prudence si vous prenez la route. On est avec vous jusqu'à 9h. Vous écoutez Europe 1, vous avez bien raison. Bon réveil à tous.
Bienvenue sur Europe 1 ce mardi 20 novembre. Il est 7h, bon réveil. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal avec Hélène Zellani. Bonjour Hélène.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Zéro de conduite, comme le titre Libération ce matin avec la photo de Carlos Ghosn, le patron de Renault, Nissan, Mitsubishi est toujours en garde à vue à Tokyo. Nous irons à l'usine Renault de Flins où les salariés sont très amers. Encore des gilets jaunes mobilisés ce matin, notamment devant des dépôts pétroliers. Casse-tête pour les salariés qui n'ont pas pu se rendre sur leur lieu de travail à cause des barrages ces derniers jours. Et puis la fin de l'état de grâce pour les champions du monde, l'équipe de France de foot éliminée de la Ligue des Nations. Grandeur et décadence d'un des plus grands patrons d'industrie au monde, Carlos Ghosn reste donc en garde à vue ce matin à Tokyo. Le patron de Renault, Nissan, Mitsubishi est soupçonné d'avoir dissimulé ses revenus entre 2011 et 2015. Il a déclaré au fisc japonais l'équivalent de 37 millions d'euros alors qu'il en a gagné le double. Il aurait aussi commis des malversations en utilisant des biens de l'entreprise à des fins personnelles. On va y revenir. À l'usine Renault de Flins en région parisienne, les salariés ont appris la nouvelle hier et ils sont à la fois sidérés et dégoûtés. Rémi Botsaron.
Un sentiment de malaise, de mal au cœur, c'est ce qui ressort chez tous les salariés à la sortie de l'usine. Face aux sommes qui auraient été dissimulées au fisc par Carlos Ghosn, Cyril ne peut s'empêcher de penser à la situation précaire de beaucoup d'entre eux.
Nous on fait des efforts de notre côté, en permanence, toujours plus de travail avec moins de monde. Et après ce qu'on voit sur ce qu'il fait sur les primes d'intéressement et tout ça, où elle diminue. Et résultat, on s'aperçoit que lui, il encaisse mais... Il le dit même pas, quoi. Il y a de l'abus, quoi. C'est inacceptable, de notre part.
Carlos Ghosn, c'est l'homme de l'accord de compétitivité, synonyme d'efforts supplémentaires pour les salariés du site ces dernières années. Mais c'est aussi pour beaucoup un patron compétent, précieux pour l'entreprise, ce qui renforce la déception de Wilfried.
Il a redressé la barre de Renault, Nissan. On a la preuve aussi qu'il a fait de sacrées choses pour Nissan. Mais à côté de ça, ça n'empêche que ce qu'il fait là actuellement... C'est pas correct, c'est juste dégueulasse.
Et certains n'hésitent pas à faire un lien avec le mouvement des gilets jaunes, l'expression d'un ras-le-bol, d'une injustice sociale qui pourrait être nourrie aussi, selon eux, par ce genre d'affaires.
Rémi Botsaron à Flins dans les Yvelines pour Europe 1.
Alors on va revenir sur ce qui est reproché précisément à Carlos Ghosn avec vous Nicolas Barret, juste après le journal parce que vous connaissez le Japon, vous y avez été correspondant à Tokyo. En substance, il y a dissimulation au fisc mais aussi abus de biens sociaux.
Oui exactement, alors le parquet Tokyo n'est pas extrêmement précis, mais quand on parle d'utilisation abusive de biens de Nissan, on pense évidemment par exemple au jet privé que Carlos Ghosn utilisait tout le temps. Et il pouvait passer jusqu'à 110 nuits par an dans cet avion. Alors forcément, sur tous ses déplacements, une partie a pu correspondre à des
déplacements privés, c'est ça ?
Exactement. Okay. Et donc ça, c'est un des points qui est au centre de l'enquête.
Merci Nicolas Barret, détail dans des minutes. On va parler des gilets jaunes, Hélène Zellani, à nouveau mobilisée ce matin.
Oui, des blocages sur les autoroutes et autour de plusieurs dépôts pétroliers. Hier, ils étaient 27 000 contre 290 000 samedi et appellent désormais à manifester samedi à Paris. Certains salariés n'ont pas pu aller travailler à cause de ces barrages. Vont-ils devoir rattraper ou poser un jour de congé ? Question épineuse à laquelle répond Théo Manval.
Elle devait prendre son poste à midi, samedi dernier, dans sa boutique de cosmétiques en Ille-et-Vilaine, quand Lucie reçoit un coup de fil de sa directrice. Avec les blocages, il n'y a aucun client, le magasin va donc fermer, pas la peine de venir travailler. Sauf que cette journée chômée, la gérante lui demande de la rattraper ou de poser un jour de congé. Et ça, Lucie n'est pas d'accord.
C'est un peu injuste, quoi. On n'a que 5 semaines de vacances. Donc 5 semaines dans une année, vous prenez 3 semaines l'été. Il vous reste 2 semaines dans l'année. Bah franchement, une journée, au final, il n'en reste pas beaucoup à la fin. Donc moi, là-dessus, je suis pas trop d'accord. Je m'en doute que c'est pas légal.
Alors on a passé en revue le code du travail. Et effectivement, il y a bien 2 cas différents. Soit votre employeur vous demande de ne pas venir travailler. Et là, il ne peut pas vous demander de rattraper cette journée. C'est le cas ici. Soit vous deviez venir au travail, mais vous avez été bloqué par un barrage. Et bien là, même si ce n'est pas de votre faute, vous devrez rattraper la journée. Ça rentre dans ce qu'on appelle un cas de force majeure. Votre employeur n'y est pour rien non plus. Le rattrapage de vos heures de travail devra se faire progressivement dans les 12 mois, pas plus d'une heure par jour à la fois.
Théo Manval. On sait que le bilan est lourd depuis samedi. 1 mort, 528 blessés, dont 17 graves, mais on est peut-être passé à côté d'un autre drame. Après le coup de filet antiterroriste de la semaine dernière en région lyonnaise, on apprend que les suspects envisageaient une action le 17 novembre. Les détails avec Pierre de Cossette.
C'est un SMS qui a mis en alerte les enquêteurs, celui d'un jeune homme à sa fiancée. Quelques mots sans détail mais qui font craindre le pire et qui mentionnent la date du 17 novembre. Cela fait alors 2 mois que l'antiterrorisme surveille avec attention plusieurs suspects. L'un d'eux est déjà en prison mais communique par téléphone depuis sa cellule. 2 autres sont des frères radicalisés. Des velléités contrariées de départ pour le djihad pourraient avoir fait germer dans leur esprit l'idée d'une action sur le sol français. La date du 17 novembre en tout cas a fait tilt chez les spécialistes de la police judiciaire, même si aucun projet plus précis n'a pu être établi et donc il n'a pas été question dans les échanges de s'en prendre à des gilets jaunes. Magistrats et policiers ont considéré mardi dernier qu'il fallait interpeller ces suspects sans attendre. 4 hommes mis en examen depuis, 3 arrêtés à Saint-Étienne, dont l'un possédait un fusil de chasse, et le dernier en prison donc. L'argument d'un projet de braquage le 17 novembre brandi par l'un de ces suspects ne semble pas avoir convaincu les autorités.
Information signée Pierre de Cossette. Et puis ce mardi est aussi la journée d'action nationale des infirmières qui se sont oubliées du plan santé annoncé en septembre par la ministre Agnès Buzyn. Elles sont appelées à la grève et à des rassemblements, notamment devant les préfectures et à Paris, devant le ministère.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal. Jean-Claude Roman, l'homme qui avait tué toute sa famille pour que son secret ne soit pas découvert, réclame aujourd'hui sa libération. On vous dit tout en quelques instants sur Europe 1. Bon réveil.
Il est 7h08, votre matinale info, Nico Seliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani, on va reparler du cas Jean-Claude Roman ce matin.
Oui, c'est cet homme condamné à la prison à perpétuité pour avoir tué sa femme, ses 2 enfants et ses propres parents en 1993. Une histoire qui a inspiré le livre d'Emmanuel Carrère, L'Adversaire, adapté ensuite sur grand écran avec Daniel Auteuil. La justice examine sa demande de libération conditionnelle. Chloé Triomphe.
Condamné en 96 à la réclusion à perpétuité, Jean-Claude Roman avait écopé d'une peine de sûreté de 22 ans. Écoulé, c'est donc son droit aujourd'hui de demander une remise en liberté. Cela fait un long moment qu'il prépare son projet pour le présenter à la justice. Il propose d'intégrer le foyer d'une association caritative pour laquelle il devra travailler. Il ne serait donc pas seul mais encadré. Mais pour la famille de sa femme qu'il a assassinée, ces garanties proposées ne sont pas suffisamment rassurantes. Emmanuel Crollet, le frère de Florence Roman.
Qu'on me dise pas qu'il est maintenant un compagnon d'Emmaüs ou autre, j'y crois pas. La crainte qui peut exister de Roman qui puisse encore tuer, qui peut me dire que ce n'est pas le cas? J'en sais rien, moi. Maintenant, il est clair qu'il faut se faire l'idée qu'il sorte. Pensons quand même qu'il n'y a pas que lui que ça concernera. Ça nous concerne.
L'audience aura lieu ce matin à l'intérieur des murs de la prison en présence de Jean-Claude Roman et de son avocat. Les parties civiles n'y assistent pas mais sont représentées par leur conseil. La décision sera mise en délibéré.
Chloé Triomphe, on en sait plus désormais sur la trajectoire énergétique que veut emprunter le gouvernement. Selon un document préparatoire avant les annonces d'Emmanuel Macron la semaine prochaine, il n'y aura pas d'autres fermetures de réacteurs nucléaires à part Fessenheim. D'ici la fin du quinquennat, le gouvernement se donne jusqu'en 2028 pour fermer jusqu'à 6 réacteurs supplémentaires et vise 40% d'électricité renouvelable en France d'ici 2034.
C'est fini pour la France en Ligue des Nations, Hélène.
Oui, les Bleus avaient perdu face aux Pays-Bas. Ils priaient pour que l'Allemagne gagne, c'est raté. Elle a fait match nul face aux Hollandais hier soir. Cyril de la Morinerie.
Les Bleus ont pris une claque hier soir. Les Français espéraient un coup de pouce de leurs voisins allemands, mais ce n'est pas arrivé. Et les champions du monde en titre se retrouvent déjà éliminés de la Ligue des Nations. La Croatie finaliste et la Belgique troisième de la dernière Coupe du Monde ont elles aussi été éliminées. Mais cela ne consolera pas Didier Deschamps. L'euphorie est déjà retombée. 4 mois seulement après avoir enflammé la France. C'est déjà la fin de l'immunité champion du monde. Deschamps leur faisait une confiance aveugle depuis la mi-juillet. Mais les cartes seront sans doute rebattues à l'avenir. En attendant, ce match face à l'Uruguay ce soir n'a plus du tout la même saveur. Désormais, l'heure est au rachat. Les Français doivent absolument montrer un autre visage que celui affiché face aux Pays-Bas. La défense, qui a encaissé 5 buts en 3 matchs, devrait d'ailleurs être remaniée. Adil Rami, Mamadou Sakho et le jeune Ferland Mendy pourraient être titularisés, en espérant que cette arrière-garde puisse stopper les offensives du redoutable duo d'attaquants uruguayens Luis Suarez et surtout le parisien Edinson Cavani, qui n'était pas là en juillet dernier en raison d'une blessure au mollet.
Cyril de la Morinerie, donc France-Uruguay ce soir à 21h au Stade de France.
Et le journal de 7h vous a été présenté par Hélène Zellani. Merci Hélène.
La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas.
Et il est 7h11, tout de suite l'édito éco de Nicolas Barré, Nikos.
Nicolas Barré, vous êtes le directeur de la rédaction du journal Les Échos, vous connaissez bien le Japon, vous y avez vécu longtemps, vous connaissez aussi Carlos Ghosn. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre, l'arrestation du patron de Renault-Nissan.
Oui, et plusieurs éléments sont très troublants dans cette affaire. Les circonstances de son arrestation d'abord, une caméra était là pour filmer, les autorités voulaient manifestement immortaliser la chute de l'icône dans une mise en scène très maîtrisée, suivie de peu après par une conférence de presse du PDG de Nissan, Hiroto Saikawa. Et là, plusieurs choses m'ont frappé. D'abord, le ton extrêmement violent de Saikawa, qui s'est dit choqué, en colère contre Ghosn. Ton inhabituel dans la bouche d'un patron japonais. Mais surtout, il a ajouté un autre point. Carlos Ghosn est resté trop longtemps aux manettes. Ce long règne est un facteur qui peut expliquer les dérives dont il est accusé. Et puis, enfin et surtout, c'est très révélateur, il a expliqué à plusieurs reprises lors de cette conférence de presse, à plusieurs reprises vraiment, que le redressement de Nissan était le fruit du travail acharné des employés de Nissan, soutenus par leur famille, beaucoup plus que l'œuvre en quelque sorte héroïque de ce patron hors norme.
En clair, il a délibérément, peut-être pour des raisons valables, le mythe Carlos Ghosn.
Mais il a démoli le mythe et il a dit aussi quelque chose de très important, c'est qu'il ne faut pas qu'à l'avenir le sort de Nissan dépende autant d'un seul homme. Ah oui. Et du coup, on a là vraiment une toute autre explication de la sortie brutale de Ghosn, une raison plus profonde que les malversations dont il est accusé. J'ajoute par ailleurs un élément de contexte, la notion d'abus de bien social qui est au centre de l'affaire aussi, est beaucoup plus permissive au Japon que chez nous. Les patrons japonais sont souvent moins bien payés. Il est très courant que les entreprises payent des tas de choses à leurs dirigeants, ce qui chez nous relèverait immédiatement de l'abus de bien social. Alors est-ce qu'il faut en conclure que Ghosn a été écarté sur des prétextes? Rien ne permet de le dire à ce stade, mais disons que ça tombe bien.
C'est un coup dur pour la France.
Oui, parce que j'ai parlé à plusieurs dirigeants français hier, ici à Paris, du CAC 40, et puis également à Tokyo. Ils sont tous abasourdis et ils se demandent tous si cette affaire ne va pas être un moyen pour les Japonais de prendre le pouvoir au sein de l'alliance Renault-Nissan. Carlos Ghosn étant écarté, ce sera plus difficile de s'y opposer.
Et en fait, l'action Renault a terminé en baisse hier à 8,43%. Nicolas Barré pour l'édito éco, c'est tous les jours à 7h10 sur Europe.
Et il est 7h13, c'est l'heure de retrouver Justin Morin qui est sur le terrain, Nikos.
On quitte le Japon pour revenir chez nous, vous êtes tous ce matin, précisément Justin.
Je suis dans l'antre des futures étoiles de la gastronomie française, dans les cuisines du lycée hôtelier du Touquet. Ah. Aujourd'hui est un grand jour, Nikos. Ses élèves accueillent la crème de la crème, les 28 cuisiniers finalistes du concours du meilleur ouvrier de France. Et puis surtout, le président du jury, Alain Ducasse, sera là aussi, une idole pour ces jeunes. Sa photo est même encadrée sur un mur tout près de Louise, en deuxième année de BTS.
Tous ceux qu'on a vus même à la télévision, que ce soit dans les grands livres, etc., on va les voir dans les couloirs. Enfin, moi, je réalise pas en tout cas.
Vous allez faire partie des commis pour la compétition ?
Oui, c'est ça. Le commis de peut-être quelqu'un qui deviendra meilleur ouvrier de France.
Attendez, c'est une pression énorme, non ?
Mais c'est énorme. On est un peu stressé, mais on est quand même content de les recevoir. C'est énorme.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous ?
Bon courage, oui, et de pas faire de bêtises.
Beaucoup de pression et pas mal de bruit autour de vous, Justin. On sent que ça s'agite déjà.
Effectivement, imaginez, ils doivent préparer à manger pour ceux qu'ils admirent cuisiner à la télé. Alors derrière chaque porte, on s'active. Ici, préparation du matériel. Ici, lustrage des cuisines. Le proviseur adjoint Lionel Vasseur.
Donc là, vous voyez actuellement Monsieur Baruzzi avec ses élèves qui nous préparent le dessert qui seront servis demain soir pour le repas régional à tous les jurys. Sur les 3 jours, plus de 200 petits déjeuners à servir, 90 collations.
Ah, il faut que tout soit nickel là.
Plus que nickel.
Monsieur Baruzzi et ses élèves, comment va se dérouler l'épreuve, Justin ?
Les 28 candidats vont devoir exécuter à la perfection trois plats diablement techniques. Un dos de lieu jaune piqué au hareng avec un parmentier de homard. Puis un lièvre en trois façons et enfin une pavlova aux fruits exotiques. 5 heures pour tout sortir, c'est un défi d'artiste. La moindre minute de retard et c'est terminé.
Est-ce que vous avez pu rencontrer un candidat ?
Et oui, difficilement, mais un chef parisien doublement étoilé. En cuisine, je n'ai pas eu le droit de lui parler pour ne pas le déranger, mais on comprend. C'est émouvant de maîtrise, de passion, du geste juste. Depuis 2 semaines, il ne pense qu'à ça, 24 heures sur 24, et ce n'est pas une image.
J'ai pris le parti de travailler la nuit pour être tranquille. Grosso modo, je commence à 3h jusqu'à 8h. On fait une petite pause. Après, à 10h, je recommence un petit peu à travailler jusqu'à 14h. Je vais dormir. Et après, je reprends à 18h jusqu'à 22. Je vais dormir et ainsi de suite. Je dors pas beaucoup à la base.
Toi, vous avez bonne mine, hein. On croirait pas comme ça.
Ben oui, la motivation, ça joue beaucoup. Ouais.
La France qui se lève tôt est talentueuse. Il s'appelle comment, ce chef ?
Alors ça, c'est secret, Nikos. Je suis désolé, c'est mon chouchou. Je croise les doigts pour lui. Je ne le cite pas. Je ne veux surtout pas lui porter malheur, vraiment.
Allez, Justin Morin au lycée hôtelier du Touquet pour la finale des meilleurs ouvriers de France. On compte sur vous pour nous rapporter une petite assiette à la rédaction. Vous êtes tous ce matin, c'est tous les jours sur notre antenne à 7h12.
Europe 1. Et il est 7h16, restez avec nous sur Europe 1 à suivre Nikos Aliagas.
Eh bien, ils en ont ras l'écharpe. C'est le titre ce matin du journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Mais qu'arrive-t-il à nos maires, les maires de France? Leur congrès annuel s'ouvre aujourd'hui à Paris dans un climat plutôt tendu. Un maire sur deux souhaite tout simplement jeter l'éponge, ne pas se représenter. Pourquoi un tel malaise? Enquête à suivre dans Europe 1 va plus loin dans quelques instants.
Tonnerre d'AXA. Il est 7h20, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Ouverture du congrès de l'Association des maires de France, porte de Versailles à Paris. Emmanuel Macron ne fera pas le déplacement. Dans un instant, on vous dit tout sur le quotidien des maires dans Europe 1 va plus loin. Carlos Ghosn en garde à vue à Tokyo, le patron de Renault, Nissan, Mitsubishi est notamment soupçonné d'avoir dissimulé une partie de ses revenus au fisc japonais. Encore des blocages de gilets jaunes ce matin pour la 4e journée consécutive, notamment devant des dépôts pétroliers comme à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône.
Nikos Aliagas, Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin au congrès des maires de France qui démarre ce matin dans un contexte tendu.
Eh bien, les élus sont réunis pour 3 jours, porte de Versailles à Paris, et signe de cette crispation, le président de la République n'ira pas devant le congrès pour rendre compte de ses engagements. Il l'avait pourtant promis l'an dernier. Et au lieu de ça, Emmanuel Macron a envoyé une simple lettre de 4 pages à l'ensemble des maires, alors que les désaccords sont multiples et qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir jeter l'éponge. Bonjour Marguerite Lefebvre de la rédaction d'Europe 1.
Bonjour Nikos.
Un maire sur deux aurait l'intention de ne pas se représenter en 2020.
Oui, après 4 ans de mandat, 50% des maires envisagent de passer la main. C'est le résultat d'une enquête inédite menée par le Centre de recherche de Sciences Po. Et cela concerne notamment les maires des plus petites communes. Un maire sur deux qui ne veut pas se représenter, c'est tout simplement du jamais vu. Pour vous donner un ordre de comparaison, en 2014, quelques mois avant les municipales, 70% des maires disaient vouloir rempiler pour un nouveau mandat. Là, les édiles n'en peuvent plus. Et l'argument massue, c'est la baisse des dotations. Si vous ajoutez à cela la réduction des contrats aidés dans les mairies et puis la suppression progressive de la taxe d'habitation, qui rapporte chaque année environ 22 millions d'euros, eh bien certains maires estiment aujourd'hui qu'ils n'ont plus les moyens de faire tourner leur ville. Ils sont fatigués, disent-ils, et c'est une fatigue psychologique.
Alors précisément, pour comprendre le quotidien des maires et pouvoir mesurer en quelque sorte leur lassitude, nous allons nous rendre dans 2 communes ce matin. Nous serons dans un instant à Saint-Pierre-Quiberon, dans le Morbihan, avec François Coulon. Mais d'abord, cap sur les Alpes de Haute-Provence. Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Châteauneuf-Val-Saint-Denis. Donna 560 habitants et la baisse des dotations dont parlait Marguerite, c'est ce qui a convaincu le maire d'arrêter, tout simplement.
Effectivement, Nikos, qui a 71 ans, ce n'est pas son âge qui pousse Michel Flamendassini à arrêter, ce sont tous les problèmes qui vont avec la fonction. Un exemple, le toit de l'église menacé de s'écrouler, il a mis 2 ans pour boucler le financement, moins de dotations, c'est aussi des routes qu'il ne peut pas entretenir et des canalisations qu'il ne peut pas remplacer, certaines dates des années 50, mais vous allez l'entendre, le malaise est plus profond.
Oh, je me suis décidé il y a quelque temps déjà, vu les difficultés que nous avons concernant les dotations de l'État qui sont en chute libre et on ne sait plus comment faire, et puis toutes les contraintes. Et oui, il y a les responsabilités pénales aujourd'hui qui font que ça inquiète beaucoup de maires. Le maire a les responsabilités, mais n'a plus un grand pouvoir de décision comme par le passé.
Et ce maire se sent souvent bien seul face à l'administration et à la complexité complexité de sa tâche, tout simplement. Il se sent abandonné par l'État.
Il se sent abandonné, on entend son amertume. C'est un maire expérimenté de 71 ans qui vous dit ça après 5 mandats. Est-ce que la population le comprend et le soutient ?
Eh bien ça, c'est une autre raison pour laquelle ce maire jette l'éponge. Si le bar fait la fête, si les jeunes jouent sur la place du village, c'est lui qui affronte la colère et les plaintes. La fibre n'est pas encore installée, c'est encore monsieur le maire qui doit répondre. Des petits tracas quotidiens, quand ce ne sont pas des plus gros, son projet d'éolienne, retoqué par le Conseil d'État, 10 ans de procédure judiciaire menée par quelques habitants.
C'est tout de suite et gratuit. Au départ, on pouvait encore s'arranger avec la population, on arrivait à trouver des compromis, alors qu'aujourd'hui, systématiquement, on va au tribunal. C'est devenu vraiment très pénible.
Ouais, systématiquement, on va au tribunal, nous dit ce maire des Alpes de Haute-Provence. On n'est plus sur la place du village, on pouvait encore discuter. Allez, on va remonter 1000 km au nord-ouest, on va retrouver François Coulon. Alors, c'est le même constat à Saint-Pierre-Quiberon, des relations difficiles avec les administrés.
Vous voyez énormément de résidents secondaires sur lesquels Madame le maire Laurence Le Duvea porte un regard peu amène.
Des gens très exigeants qui nous prennent pour bécassines. Ces septuagénaires qui ont vécu mai 68 pensent vraiment à eux. Ils contestent tout pour son propre intérêt. C'est pas pour le collectif. Donc là, je suis un peu désabusée par rapport à ça.
C'était son premier mandat, François ?
Oui, Laurence Le Duvea, médecin généraliste, n'avait jamais été élue avant de diriger Saint-Pierre-Quiberon en 2014. Très vite, elle a découvert les affres de la trahison en politique.
Qu'on reçoit des coups de poignard dans le dos quand on ne s'y attend pas, dans sa propre majorité, je trouve que c'est ingrat. D'avoir un oui droit dans les yeux et d'avoir un jeu de sape par derrière, on se prend vraiment en travers de la figure. Quand vous avez beaucoup d'obstacles devant vous, à un moment donné, vous n'avez plus la force. Et alors que vous pouvez avoir de belles idées, avoir un enthousiasme débordant, être idéaliste, vous pouvez être cassé dans de telles conditions.
Eh oui, le médecin généraliste, maire qui est déçu, quand il y a du pouvoir, il y a de la trahison, madame. Dernier fléau particulièrement pénalisant pour cette maire novice, c'est la valse des cadres municipaux.
Effectivement, un phénomène nouveau et pratiquement paralysant à Saint-Pierre-Quiberon.
En 4 ans et demi, j'ai connu 4 directeurs généraux des services. C'est le poste clé. C'est dingue. Il y a une surenchère et je m'en vendrai au plus offrant, ce que j'appelle du mercenariat. Et là, je suis stupéfaite. Les gens veulent toujours plus, en mettant les élus en grande difficulté.
Voilà, Nikos, tout ça a fini de surcroît par mettre la vie de couple de Laurence Le Duvea en péril, en plus, d'où cette décision de ne pas renouveler l'expérience en 2020.
Bah, on a écouté son témoignage. Merci François Coulon dans l'Ouest. Merci à Frédéric Michel en PACA, ainsi qu'à Marguerite Lefebvre à Paris pour ce nouveau dossier ce matin. D'Europe 1 va plus loin. Être sur le terrain pour essayer de comprendre, sans juger, être à l'écoute de nos auditeurs et de la société. La mission difficile de nos maires. On en reparle avec François Barmoin, président de l'Association des maires de France. Il sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara à 8h15.
Europe 1. Et il est 7h26.
À suivre, l'innovation avec Anissé Mbida, des mini-éoliennes pour transformer les courants d'air dans les couloirs du métro en électricité.
Ah, ça c'est fou.
Oui, ouais, c'est possible. On vous dit tout juste après ça. Bon réveil à tous.
Il est 7h29.
Retrouvez l'innovation du jour avec EDF.
Et avec Anissé Mbida.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, Anissé ? Vous nous annoncez des éoliennes en centre-ville, dans les couloirs de métro, qui vont profiter des courants d'air pour générer de l'électricité.
Mais alors, je rassure tout le monde, c'est pas justement les éoliennes classiques, des grandes avec un long mât et des grandes hélices. Non, 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 ça ressemble plutôt à des petites boules de la taille d'un ballon de handball. D'accord. Qu'on accroche comme des lampes sous les balcons, dans les tunnels, les couloirs du métro, bref, partout où ça peut souffler vraiment brusquement. Parce qu'il faut le savoir, il y a beaucoup, beaucoup de vent en ville, des vents forts. Mais jusqu'ici, on n'arrivait pas à les exploiter parce qu'avec les bâtiments, le vent est dévié, il change constamment de direction. Et l'innovation, justement, ça a été d'avoir conçu une boule éolienne avec un design qui lui permet de tourner toujours dans la même direction, quelle que soit la direction du vent, justement, qui vienne d'en haut, d'en bas, de gauche ou de droite.
Et c'est efficace, mais est-ce que ça génère suffisamment d'électricité ?
Alors évidemment, pas autant qu'une immense éolienne pointée pile face au vent, oui. Mais selon les créateurs, ça devrait permettre à chacun de générer très simplement sa propre électricité, de la même façon que quand on installe des panneaux solaires, il suffira d'accrocher ces fameuses éoliennes lampions. Il vient d'ailleurs de remporter le premier prix du prestigieux concours James Dyson Award, donc peut-être qu'un jour, une partie de l'électricité qu'on consommera en ville, elle sera générée par des bourrasques et par des courants d'air.
L'innovation du jour avec Anissa Mbida sur Europe 1, c'est tous les jours à 7h20.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Accompagnement, soutien financier, avec les prix EDF Pulse, EDF met en lumière les startups qui inventent notre avenir électrique. Plus d'infos sur edf.fr.
Dans un instant, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite, la météo avec Laurence Cabrol, Nikos.
Et avec la neige.
Et en cette Saint-Edmond, il y a des flocons.
Oui, sur les monts, et nous avons par exemple dans l'Yonne, dans Loiret, la Seine-et-Marne, l'Aube, la Marne, des chutes de neige qui ne sont pas très très importantes, mais enfin, parfois les routes sont glissantes, et surtout l'Isère, qui détient le pompon en ce moment, avec des chutes de neige qui s'accumulent sur 5, 10, parfois 15 centimètres. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure en détail. Je voudrais simplement dire que les secteurs où il peut neiger aujourd'hui, où il neigera surtout ce matin, la Normandie, la Picardie, le Nord, l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, la Bourgogne, Rhône-Alpes, le Centre et le Morvan. Et puis je vous parlerai tout à l'heure des pluies qui seront très nombreuses dans le sud dans le courant de l'après-midi seulement. Et pour terminer, les éclaircies très présentes sur les côtes atlantiques dans le courant de cette journée, avec des températures aujourd'hui qui seront pour la plupart supérieures à 2 degrés.
Merci Laurent Cabrol. Prochain point météo, juste avant le journal de
8h. Excusez-moi, c'est pas grave. Nous sommes le mardi 20 novembre.
Toujours un plaisir de me faire couper par cette jolie voix.
Et il est 7h31.
On est où ?
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Oui, parce qu'à 7h31, ça veut dire qu'on vous a volé une minute du journal. Oui. Céline Kallmann, bonjour.
Oui, je vais la garder. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Un métier en souffrance aujourd'hui dans la rue. Les infirmiers et les infirmières appelés à manifester pour défendre un système de santé de qualité. La profession estime qu'elle n'est pas considérée, trop mal payée et poussée à s'occuper des patients sans plus jamais prendre le temps. Assina est infirmière à l'hôpital Nord de Marseille. Elle est en grève aujourd'hui, mais réquisitionnée. Elle portera un bras. Après 10 ans à l'hôpital, elle n'en peut plus.
Tout va mal. On a une charge énorme de plus en plus. Un manque d'effectifs. On essaye de tirer. Malheureusement, ben on s'épuise psychologiquement, on s'épuise physiquement. Il n'y a rien qui suit. Et puis, au bout d'un moment, ça lâche, quoi. On se met en maladie parce que on n'y arrive plus. Il faut aller vite. C'est les patients qui en pâtissent. Hein. Par moment, l'humain, on le met de côté. Travaille à la chaîne, quoi. Je vous le dis honnêtement, je touche 1600 euros. Je trouve que c'est pas assez pour le travail que je fais.
Quand vous faites une garde le week-end ?
Le week-end, c'est 50 euros. Pour moi, personnellement, oui, c'est énorme.
Vous avez envie d'arrêter ?
C'est vrai que ça revient tout le temps. Je continue ou j'arrête. Surtout dans la fonction publique, les conditions sont vraiment dégradées depuis des années maintenant.
Assina au micro Europe 1 de Nathalie Chevant. Cette information Europe 1 de Michaël Darmon. Emmanuel Macron va réunir les 4000 plus hauts fonctionnaires, les directeurs d'administration, les préfets le 12 décembre prochain. C'est une première dans l'histoire de la République. Ce sera pour un exercice de motivation. Il veut que la haute fonction publique ne soit pas un frein au changement.
Les gilets jaunes poursuivent leur mouvement sur le terrain.
À La Réunion, tous les établissements scolaires et les crèches sont fermés sur ordre de la préfecture en raison de blocages menés par les gilets jaunes. Par ailleurs, des commerces ont été incendiés et vandalisés à Saint-Denis et Saint-Paul. Les gendarmes sont arrivés en renfort depuis Mayotte. En métropole, toujours des points de blocage ce matin, notamment sur les autoroutes A9 et A13. Les commerçants font les comptes après 3 jours de blocage. Le week-end a en tout cas été dévastateur dans de nombreuses zones commerciales. L'enseigne Auchan particulièrement impacté. Écoutez Olivier Louis, il en est le directeur de la communication.
Sur l'ensemble des hypermarchés, on est sur une fréquentation de moins 55% et on est sur un chiffre d'affaires équivalent à moins 55 sur les hypermarchés. Et donc sur une journée du mois de novembre aussi importante que le samedi, c'est effectivement considérable. On a une vingtaine de sites qui sont actuellement bloqués au niveau des accès, qui ne peuvent pas être livrés parce que les entrepôts sont également bloqués. Et donc on observe aussi une perte de patience de la part des clients, de la part des commerçants et qui devient un peu dangereuse parce que c'est dans cette situation-là où malheureusement des drames peuvent arriver.
Olivier Louis avec Maud Descamps pour Europe 1. Hier, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a haussé le ton. Il prévient, les forces de l'ordre procéderont à des déblocages dans les heures qui viennent. Hier, un homme de 32 ans a écopé de 4 mois ferme pour avoir formé une chaîne humaine sur l'autoroute. Le procureur de la République de Haute-Saône, Emmanuel Dupic, annonce que tout blocage sera sanctionné.
Il y a un droit constitutionnel qui est parfaitement respecté, qui est le droit de manifester, mais il y a aussi le droit de circuler librement, et encore une fois, il est intolérable que quelques-uns privent la grande majorité la possibilité d'emprunter des axes de circulation. Les personnes aujourd'hui qui vont entraver la circulation dans des ronds-points, dans des carrefours, dans des axes de circulation, sont passibles d'une peine de 2 ans d'emprisonnement Et en Haute-Saône, effectivement, on mènera des enquêtes et on poursuivra les auteurs de ces faits.
Le procureur de la République de Haute-Saône, Emmanuel Dupic, avec Jean-Gabriel Bourgeois.
Europe 1, il est 7h35.
L'accusation est lourde contre Carlos Ghosn, le patron de Renault-Nissan Mitsubishi.
Il vient de passer une première nuit en garde à vue à Tokyo, arrêté hier après des mois d'enquête interne menée par Nissan. Son empire s'effondre, il aurait caché au fisc japonais des millions d'euros de revenus. Et il est soupçonné également, selon les informations de Nicolas Barré, d'avoir utilisé le jet de Nissan à des fins personnelles. Alors évidemment, chez les ouvriers de Renault, cette nouvelle est très dure à avaler. Ils sont écœurés, à l'image d'Ali Kaya, il est le secrétaire CGT à l'usine de Flins.
Ce monsieur gagne 45 000 euros par jour, samedi, dimanche compris, 45 000 euros par jour. Pendant ce temps-là, ici, il y a 2500 précaires qui sont au SMIC. Il y a des travailleurs qui ne sont pas augmentés depuis des années. Il a précarisé. Les salaires sont bloqués. C'est tout ça qui est choquant. Gagner 45 000 euros par jour et en vouloir encore, c'est tout un système qui est complètement pourri. D'un côté, c'est la galère, les fins de mois difficiles. De l'autre, c'est en fait, ils croulent sous l'argent. Ils en veulent encore plus.
Ali Kaya au micro européen de Rémi Bostaron. Emmanuel Macron a réagi hier en assurant que l'État français, qui détient 15% du capital de Renault, serait extrêmement vigilant quant à la stabilité du groupe. Les agences de Pôle emploi sont en grève aujourd'hui. 4000 suppressions de postes d'ici 2022. Et à l'instant, le taux de chômage en France au troisième trimestre vient de tomber. 9,1% de la population active nous annonce l'INSEE, autrement dit un taux stable par rapport au deuxième trimestre. Première claque pour la France, éliminée de la Ligue des Nations par le football après le nul entre l'Allemagne et les Pays-Bas hier. Ce soir, les Bleus de Didier Deschamps affrontent l'Uruguay en match amical.
C'était le journal de Céline Kallmann à 7h30, voire 31. Merci Céline.
Europe 1. Et il est 7h37.
Jean-Michel Apathy, bonjour.
Bonjour Nikos.
On en parle depuis ce matin des maires de France et de leur ras-le-bol. Le congrès des maires s'ouvre ce matin à Paris. Le contexte est tendu.
Oui. En fait, les maires sont épuisés et ça n'est pas seulement la relation avec le gouvernement qui est difficile, c'est un système municipal qui est épuisé.
Jean-Michel Apathy sur Europe 1, c'est juste après ça. Tout de suite, bon réveil à tous.
Europe 1. Il est 7h40, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Alors, expliquez-nous, Jean-Michel Apathy, qu'est-ce qui ne va pas au congrès des maires de France ? Des maires amers, sans faire de mauvais jeu de mots.
Ah oui, des maires amers, des maires en colère, des maires inquiets, des maires fatigués. Une étude du CEVIPOF, le centre d'études de la vie politique française, indiquait la semaine dernière qu'un maire sur deux, il y a 36 000 communes en France, un maire sur deux envisage de ne pas se représenter en 2020. Alors pourquoi ? D'abord, c'est une tâche qui prend beaucoup de temps, être maire, surtout dans les villages, les petites villes. Les moyens pour faire, pour accomplir ce mandat diminuent, notamment parce que l'État diminue les dotations de financement auprès des collectivités territoriales. Et puis, les maires, ça c'est un archaïsme, ne sont pas payés. Ils ont des indemnités dans les villages, les petites villes, c'est des indemnités ridicules. Ils doivent donc cumuler leur fonction de maire avec un emploi et ils sont fatigués, les bons samaritains, ça suffit. Et donc, il y a une crise de la vocation municipale. Il faut changer le système municipal français. Alors c'est comme souvent, un vieux débat, mais rien n'a avancé depuis des décennies. 36 000 communes en France, 11 000 seulement en Allemagne, alors qu'il y a 15% de population de plus. Et il faut s'inspirer de l'exemple allemand, il faut débarrasser le paysage administratif des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des intercommunalités. Il faut faire des grandes communes.
Centralisées.
8 000, 10 000 communes. Et à leur tête, celui qui est élu, il faut lui donner un vrai salaire. On paye un député pour faire un travail. Eh bien, il faut payer le maire. Et il faut payer le temps qu'il passe, il faut en faire un professionnel durant le temps de son mandat, élu mais bien payé. Ça se serait rentré dans le 21e siècle et aujourd'hui les maires de ce point de vue sont dans le 19e siècle et ça changerait beaucoup de choses. Profitons quand même de l'association, de la présence du congrès des maires et de la présence de François Barouin, président de l'association des maires de France tout à l'heure à 8h15,
invité, oui.
Bien sûr, d'Audrey Caspomara, pour nous interroger sur Marseille. Jamais en France on a connu une crise municipale comme celle que connaît Marseille aujourd'hui, deuxième ville de France. Jean-Claude Gaudin peut-il ou pas aller au bout de son mandat quand si visiblement le lien est rompu avec sa population ? Profitons aussi de la présence des maires pour poser une question philosophique. Christian Estrosi, maire de Nice, en compagnie de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, a inauguré vendredi dernier à Nice, donc, a mis une plaque Charles Pasqua dans une rue de la ville. Charles Pasqua, ancien ministre de l'Intérieur, a été condamné pour financement illégal de campagnes électorales, complicité, recel et abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, tout ça n'est pas mince. Alors la question philosophique est la suivante, un maire peut-il donner à une rue de sa ville le nom de quelqu'un qui a un casier judiciaire aussi plein? Si la réponse est oui, et visiblement c'est la réponse de Christian Estrosi, alors il faut réécrire d'urgence les manuels d'éducation civique dans les écoles.
Le coup de gueule pour terminer, Jean-Michel Apathy, c'est votre point de vue politique quotidiennement sur notre antenne à 7h40. Merci Jean-Michel.
Europe 1. Mais il est 7h43, Nico Saliegas.
Et bien dans un instant, je reçois Jean-Paul Rouve. Il signe son 4e film en tant que réalisateur, Lola et ses frères, l'histoire d'une fratrie confrontée aux aléas de la vie. Mais Jean-Paul Rouve est un garçon et un cinéaste qui observe la société. On évoquera aussi l'actualité et la politique avec lui. À tout de suite sur Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliegas.
Principaux titres à retenir ce matin, Nico Saliegas.
Pas de fermeture de réacteurs nucléaires d'ici la fin du quinquennat, à l'exception de ceux de Fessenheim. Emmanuel Macron et Édouard Philippe doivent annoncer la semaine prochaine la future programmation pluriannuelle de l'énergie. Carlos Ghosn, le PDG de Renault, est en garde à vue au Japon, arrêté hier pour des soupçons de dissimulation de revenus. Nissan a annoncé la tenue d'un conseil d'administration dès ce jeudi pour démettre Carlos Ghosn de ses fonctions. Information Europe 1 de Michael Darmon, le 12 décembre prochain, Emmanuel Macron va réunir les 4000 plus hauts fonctionnaires. C'est une première dans l'histoire de la République, ce sera pour un exercice de motivation. Il veut que la haute fonction publique ne soit pas un frein au changement.
Europe 1. Nico Saliegas, vous recevez ce matin Jean-Paul Rouve.
Bonjour Jean-Paul Rouve.
Bonjour Nico.
La semaine prochaine, vous sortez votre 4e film en tant que réalisateur et acteur, puisque vous jouez dans votre film Lola et ses frères. C'est un long métrage émouvant, sensible, qui photographie aussi la société française, avec notamment José Garcia, Ludivine Sagné, Ramzy aussi, dans un tout autre registre. Ça raconte l'histoire d'une fratrie avec des moments de vie heureux, mais aussi compliqués. Pourquoi ces thèmes vous tiennent à cœur ?
J'aime bien parler de la vie, j'aime bien parler de nous, j'aime bien les petites choses de la vie, j'aime bien parler des non-dits dans les familles, des silences, et tout ça j'essaye teinté d'humour et d'émotion, c'est ça qui ça me touche, j'aime regarder nos contemporains.
C'est vrai que dans tous vos films, vous mettez le doigt sur la photographie de la société, oui. Sur des petites histoires, sans faire la leçon. Vous vous attachez à mettre en valeur la tendresse, la bienveillance, les problèmes, le chômage, la solitude. Ce film, c'est presque un film sociétal qu'on pourrait voir dans quelques années.
Ben j'espère, je me dis ça quelquefois, je me dis peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde ce film dans 20 ans, il n'y aura peut-être plus personne, mais il dira tiens c'est une image de la France des années 2010-2020. Voilà, ça me passionne, ça me passionne. Après c'est pas du documentaire, ça reste du cinéma, donc il y a la magie du cinéma, il y a le regard du cinéma, mais ça me plaît, c'est tous les cinéastes que j'ai aimés, c'est Claude Sauté, c'est tous ces gens-là qui m'ont fait grandir et que j'ai regardé, ou de la littérature. Ce film, je l'ai écrit avec David von Kinos. Et David, dans ses livres, il parle aussi ça, il parle des petites choses de la vie. Il s'intéresse jamais à la baguette sur la table, il va s'intéresser à la petite miette de pain sur le côté.
À la nappe, mais c'est vrai qu'avec David von Kinos, vous avez déjà fait les souvenirs. Il y a le thème du passé, qu'est-ce qui reste de nos anciens dans la société. On parle beaucoup des retraités. Et il y a en fond, en surimpression, toujours un personnage âgé dans vos films, qui arrive, qui observe, qui donne son avis et qui salue et qui nous rappelle qu'on est de passage.
Exactement, c'est exactement ça, vous avez entièrement raison. J'adore ça. Dans le film, il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle On ira, et j'ai choisi cette chanson pour une phrase qui est à un moment.
Ben, on ira.
Ouais, et il dit à un moment tous ces gens qui vivent comme s'ils ignorent qu'ils allaient mourir demain. Et je trouve cette phrase d'un grand optimiste.
Vous venez d'une famille d'ouvriers ?
Oui, c'est ça. Mon père était ouvrier au chantier de France à Dunkerque. Ouais.
Vous avez vu votre père perdre son emploi à 50 ans ?
Oui, exactement. C'est-à-dire à l'âge que vous avez, à l'âge que j'ai. Et vous imaginez, vous et moi, on pourrait. Qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça fait ? Et moi, ça m'a évidemment marqué.
Qu'est-ce que ça a changé dans votre tête, justement, parce que vous n'étiez pas encore star, artiste, vous vouliez le devenir. Ouais. Mais quand votre papa n'a plus de boulot et qu'il est fier, et il sait qu'il n'en trouvera pas demain,
bah non.
Qu'est-ce que ça provoque chez vous ?
Bah, ça provoque certainement une inquiétude. Qu'est-ce que je voulais vous dire?
C'est un moteur pour, je sais pas, pour réussir, travailler, essayer de s'en sortir, rendre fiers ses parents.
Ouais, c'est ça, la fierté, s'en sortir, se battre, aller jusqu'au bout de ses rêves, dire c'est possible, on peut y arriver, je peux y arriver, c'est ça dont j'ai envie, je viens de Dunkerque, je veux être acteur, le chemin il est quasi impossible, et ben je vais tout faire pour réussir. Voilà, et puis pour évidemment la fierté, c'est
quoi,
important.
Réussir, c'est se réaliser, c'est gagner des sous, c'est être connu, c'est... ou mettre du sens dans son travail.
Enfin, pour moi réussir, c'est pour moi, j'ai l'impression que réussir, c'est quand votre but, c'est le chemin et c'est pas l'endroit où vous voulez aller. C'est tout le long du chemin le but.
Dans Les Tuches 3, qui a fait près de 6 millions d'entrées, Jean-Paul Rouve. Là, on est très proche de l'actu. Hein. Au début, on parle des maires ce matin dans notre matinale. Vous êtes un maire qui demande l'arrivée du TGV dans sa ville. Ça n'a pas marché, puis finalement, il veut devenir président. L'actualité vous interpelle, vous inspire, Jean-Paul Rouve ?
Oui, oui. Alors, Les Tuches, on ne l'écrit pas tout seul. Attention, hein. Il y a Philippe Méchien, il y a Julien Hervé, il y a des anciens auteurs des Guignols, il y a Olivier Barou. Oui, on avait envie de parler un peu de ça, de mettre des petites choses de la société dans ce film. Après, c'est compliqué parce que quand vous faites un film comme ça, il ne faut pas tomber dans un populisme facile.
Oui. On peut être dans l'humour, on peut être dans la caricature.
Attention, pas donner de leçons.
Voilà, mais jamais de leçons.
Ah non, surtout
pas. On ne se moque pas des gens, on rit avec les gens, c'est ça ?
Surtout pas, bien sûr, mais tellement. Puis pas dire, faut faire comme ça, et puis les patrons c'est des cons et les ouvriers c'est des gentils. Non, la vie elle est plus compliquée que ça. Oui, on a essayé, hein. J'ai l'impression que ça a plu, enfin les gens s'y sont retrouvés, parce qu'aussi il y a beaucoup d'humanité dans Les Tuches, c'est ça aussi.
Ça, vous en avez besoin. Comment passer des Tuches à Lola et ses frères, juste en essayant d'être le plus sincère possible. On va peut-être commenter ensemble l'actualité. Vous restez pour le journal?
Ah oui, je suis pas Jean-Michel Apathy, attention.
Hein. Non, mais pas de façon politique ou engagée, juste en tant qu'observateur,
avec
en
plaisir.
Tant qu'artiste, puisque vous êtes inspiré aussi par le quotidien des gens. Vous auriez pu faire un film sur les gilets jaunes, par exemple.
Oui, c'est intéressant, des mouvements comme ça, humains, bien sûr que c'est intéressant.
Jean-Paul Rouve, reste avec nous, et on se retrouve juste après ça.
Europe 1. Il est 7h52, à suivre, Nikos.
Le Zoom Echo avec Axel de Tarlé. On va parler d'Internet et de quelques applications. Et puis Vincent Herouet nous emmènera au Yémen pour parler d'une sale guerre, selon les mots de Jean-Yves Le Drian. A tout de suite sur Europe 1.
7h-9h, Nikos Aliagas sur Europe 1.
Il est 7h55, l'heure du Zoom Echo, Nikos Aliagas avec Axel de Tarlé.
Et Axel de Tarlé, généralement, est discret quand nous avons des invités, puisque c'est Jean-Paul Rouve qui nous accompagne jusqu'à 8h. Et en rentrant dans le studio, il a dit « Je vous ai adoré dans le sens de la fête, le photographe ».
Ah, le personnage du photographe est exceptionnel. Il est tout fier d'être le mentor, là.
Alors, c'est assez incroyable. Nos données personnelles et intimes sont revendues en toute légalité sur Internet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Eh bien, écoutez, attention, si vous êtes allé sur les sites de petites rencontres type Tinder ou Mythique, tout peut se retrouver sur la place publique. C'est une ONG allemande qui a fait le test. Elle a acheté aux États-Unis et en toute légalité les profils de millions d'utilisateurs, y compris des Européens, hein, qui se sont inscrits donc sur ces sites de rencontres. Alors, on obtient les emails, professions, lieux de résidence, loisirs, photos, mensurations, préférences au lit. On peut tout acheter.
Ah ouais.
Et c'est légal, parce que quand on accepte les conditions générales d'utilisation, vous savez, quand on clique j'accepte, eh bien on accepte que ces données privées soient revendues. Alors elles peuvent être revendues à votre banquier par exemple, ou à votre assureur qui, sachant vos petits secrets, pourrait en conséquence ajuster les conditions d'un prêt ou une police d'assurance. Voilà.
Jean-Paul Rowe, vous êtes sur Tinder?
Non, bien sûr. Enfin, Nico, c'est vous qui m'avez inscrit. Enfin.
Non, bah, ce qu'il faut dire sérieusement, en Europe, on a fait passer une loi pour protéger nos données privées. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne.
Alors, si, c'est le RGPD, effectivement, le Règlement Général de Protection de Données Privées. Bah, écoutez, on va voir son impact. Il vient d'entrer en application, là, en mai dernier.
Ouais.
L'idée, effectivement, en Europe, c'est désormais de rendre anonymes toutes nos données privées.
Ouais.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, justement, le patron d'Apple aux États-Unis, Tim Cook, vient de se rallier à cette idée des Européens d'avoir une réglementation sur les données. Le patron d'Apple dit, c'est pas possible de gagner sa vie en revendant les données privées des internautes. À un moment, l'argent ne passe pas avant la morale. morale. Alors, de ce point de vue, vous le voyez, les Européens auraient une longueur d'avance. Il faut dire, Nikos, qu'en matière de régulation, c'est connu, les Européens sont très forts. Vous connaissez ce fameux adage, quand il y a une invention sur Terre, les Américains en font un business, oui. Les Chinois en font une copie et les Européens en font une réglementation. Et écoutez, ça fonctionne à merveille avec Internet.
Axel de Tarlé, le Zoom écho tous les jours sur Europe 1.
Et il est 7h58, l'heure de retrouver Jean-Philippe Bellas pour la petite histoire du jour, Nikos.
Énormément commenté sur Internet avec le hashtag Europe 1 hier, votre rubrique sur la chanson et le clip d'Elton John, mon cher Jean-Philippe Bellas. Et aujourd'hui, vous nous parlez de la Californie alors que les flammes continuent de ravager cette zone de la Terre. Vous nous racontez un souvenir au milieu des cendres.
Ouais, c'est l'histoire de Peter, veuf, retraité. Je l'avais croisé il y a quelques années dans les ruines de sa maison à San Bernardino, près de Los Angeles, région souvent touchée par les incendies. Et je me souviens de ce vieil homme fébrile qui cherche dans les décombres calcinés, cherche quelque chose de précis, manifestement Peter. « Oui, je cherche mes albums de famille », dit-il. Les photos de mariage, de baptême, d'anniversaire, les années 60, toute une vie dans un carton. Évidemment, le carton est parti en fumée. Alors Peter s'assoit au bord de ce qu'il reste de sa cheminée. Il murmure « Je n'ai plus aucune image de ma femme ». Il soulève sa casquette, il se gratte le front et je me souviens très bien du silence qui a suivi. Puis soudain, Peter se redresse. Après tout, j'ai pas besoin de photos pour me souvenir de mon épouse. Et il se remet à fouiller comme ça dans les cendres. Il en tire quelques jouets en plastique à moitié fondu. C'était aux enfants, ils sont très vieux, très moches. Mais ça me fait plaisir de les retrouver, rigole Peter. Il s'excuse pour les larmes, vous dit qu'il va reconstruire ailleurs parce que sa femme n'aurait pas aimé qu'il se laisse abattre. Bah, vous savez quoi les amis, à chaque nouvel incendie en Californie, je repense à Peter, à son courage, à son épouse, à leurs souvenirs. Et aux jouets en plastique.
Love me tender, love me sweet, never let me go.
Le King Elvis Presley avec Jean-Philippe Bellas, la petite histoire qui nous touche, qui nous fait du bien. C'est tous les jours avant 8h. Vous m'avez rappelé aussi les habitants de l'Aude qui ont souffert des inondations. Absolument. Et qui nous parlaient des photos. Voilà, une simple photo, le lien, et ça nous rejoint un peu, ça nous replonge dans vos films aussi, Jean-Paul Rouve.
Ouais,
les souvenirs, souvenir,
ouais,
qu'est-ce qu'on garde ?
Oui, oui, pas se construisons-nous sans oublier le passé, c'est important ça.
Monsieur Cabrol, parlez-nous de l'avenir.
Voilà, l'avenir, il est tout blanc. Là, en ce moment, il neige pas mal, hein, quand même. En Isère, notamment, nous avons jusqu'à 20 cm de neige dans une petite région naturelle qui s'appelle les Terres Froides, du côté de Bourgoin-Jallieu, de la Tour du Pin, etc. Donc, pas mal de chutes de neige. Et puis, il neige aussi vers dans l'Ain, le Jura, le Lyonnais. Enfin, pas le Lyonnais, pas la ville de Lyon, hein, autour. Hein, l'Ardèche, enfin bref. Ce sont des chutes neigeuses qui vont se persister jusqu'à midi. Après, en deuxième partie de journée, les températures seront positives, donc il ne neigera plus, ce sera plus que de la pluie ou de la pluie et de la neige mêlée, excepté un secteur ou même plusieurs secteurs, toutes les côtes atlantiques, où là nous n'aurons pas de pluie ni de neige, nous aurons des éclaircies, ainsi que la vallée de la Loire avec la Bretagne, le Poitou-Charente et la Côte d'Azur. Les températures maximales 2 à Langres et en banlieue parisienne cet après-midi, maximales, hein, 3 à Paris intramuros, 5 à Caen, 6 à Bordeaux, 8 à Lyon et 9 à Toulouse.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Excellente matinée à tous. À l'écoute d'Europe 1. Il est 8h01. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Saliakis.
Le journal avec vous, David Doucan, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Trois titres à la une ce matin.
C'est la preuve que l'heure est grave. Le ministre des Affaires étrangères s'exprime sur la politique intérieure. Jean-Yves Le Drian parle des gilets jaunes. Il veut un gouvernement qui écoute davantage. Décryptage dès le début de ce journal. Un appel d'autant plus important que les colères s'additionnent aujourd'hui. Il y a les gilets jaunes, mais aussi les infirmières qui manifestent et les maires qui n'en peuvent plus. Rude journée en perspective pour Emmanuel Macron. Comment passer en quelques heures du statut de premier de cordée à celui de dernier de la classe? Carlos Ghosn est en garde à vue à Tokyo, le PDG de Renault est soupçonné d'avoir caché ses revenus aux services fiscaux japonais.
Europe 1.
Quand il parle de politique, on l'écoute. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, était hier soir l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Écoutez ce qu'il avait à dire au sujet de la crise des gilets jaunes.
Il y a une souffrance qui s'est exprimée. À mon sens, elle a deux origines sur lesquelles le gouvernement doit être très vigilant. Il y a d'une part une espèce de sentiment selon lequel la transition écologique est payé davantage par certaines catégories plutôt que d'autres. Il y a deuxièmement une forme d'inégalité face à la mobilité, c'est-à-dire une inégalité des territoires.
Et
il faut que sur chacun de ces sujets-là, nous mettions en place des dispositifs de vigilance, voire de rendre publiques les observations que nous pouvons faire, voire d'avoir un observatoire de ces inégalités qui permettent ensuite d'y remédier. Et c'est cet appel-là que moi j'ai senti dans ces manifestations.
Alors Michaël Darmon du service politique d'Europe 1 nous a rejoint. Bonjour Michaël.
Bonjour.
Jean-Yves Le Drian n'a pas l'habitude d'improviser une réaction. Je rappelle que c'est l'homme des bonnets rouges. Quel sens faut-il donner à cette prise de position ?
Mais écoutez, Jean-Yves Le Drian ne parle jamais de politique intérieure. Il le fait pour la première fois depuis le début du quinquennat, signe qu'il considère que l'heure est grave. Avec cette intervention exceptionnelle en vieux sage, Jean-Yves Le Drian envoie un double signal. Il veut aider le président de la République, lui qui déjà, vous l'avez dit, au dernier quinquennat, était intervenu pour dénouer la crise des bonnets rouges. Le Drian critique entre les lignes une attitude du gouvernement jugée trop raide face au désarroi de beaucoup de Français. C'est une première fissure dans la gestion de la crise des Gilets jaunes.
Merci Michaël Darmon du service politique d'Europe 1.
Des colères qu'il faut davantage écouter. Il y en a beaucoup qui s'expriment aujourd'hui.
Oui, Emmanuel Macron les entendra-t-il depuis la Belgique où il est toujours en visite d'État? Il ne sera d'ailleurs pas présent au Congrès des maires de France, contrairement à l'engagement qu'il avait pris l'année dernière. Cela ne va pas améliorer les relations avec des édiles à la fois inquiets mais aussi démotivés. Selon une enquête du Cevipof, plus de la moitié d'entre eux ne souhaitent pas se représenter au municipal de 2020. Écoutez par exemple Laurence Le Duvea, maire de Saint-Pierre-Quiberon dans le Morbihan, au micro de François Coulon.
J'ai 1 147 € par mois. C'est beaucoup d'investissement humain. Et c'est une mission qui nous prend minimum 40 heures semaine, voire 60. Quand vous avez beaucoup d'obstacles devant vous, à un moment donné, vous n'avez plus la force. Vous êtes lassé. Et alors que vous pouvez avoir de belles idées, avoir un enthousiasme débordant, être idéaliste, vous pouvez être cassé dans de telles conditions.
Nous reviendrons sur ce sujet à 8h15. L'invité politique d'Audrey Crespo-Marais, le président de l'Association des maires de France, François Barrois.
Et la colère, ce sont aussi les infirmières qui vont manifester aujourd'hui. Elles reprochent au gouvernement un plan santé trop axé sur les médecins. Elles ont l'impression d'en être les grandes oubliées. 16 organisations syndicales appellent aujourd'hui à la grève. Des cortèges sont prévus partout en France.
Et pendant ce temps, les gilets jaunes, bien sûr, qui ne rendent pas les armes.
En effet, ils poursuivent ce matin leurs opérations de blocage, mais il n'y en a plus qu'une dizaine, selon Christophe Castaner, car la police intervient un peu partout pour les déloger. C'est le cas à Caen, mais aussi à Rennes, où les manifestants ont été évacués d'un dépôt pétrolier. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène. Alors la suite de ce mouvement, c'est quoi ? C'est l'appel à une grande manifestation samedi prochain à Paris. Mais cela peut-il durer ? Le mouvement va-t-il se structurer ? Les professionnels de la route ou les agriculteurs vont-ils se greffer ? Les réponses avec Maud Descamps.
Tout d'abord, les chauffeurs de VTC menacent de se greffer au mouvement. Leur fédération a demandé être reçue par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Mais en l'absence de réponse d'ici la fin de la semaine, nous appellerons à la mobilisation, prévient-on. Pareil du côté des jeunes agriculteurs qui pourraient rejoindre la manifestation si et seulement si les revendications se recentrent sur le monde rural. La décision sera prise demain. En attendant, sur les réseaux sociaux, les Gilets jaunes s'organisent déjà pour samedi, comme Arnaud en Seine-et-Marne.
La plupart des gens qui sont ici ont déjà posé une semaine de congé, au minimum déjà. Tous les derniers congés annuels qui nous restaient à tous, pratiquement, on les a tous posés.
Marc, lui, sera à Limoges pour bloquer, comme samedi dernier, la Nationale 20.
Je vais continuer à me mobiliser. C'est exactement la même démarche que samedi dernier. Hein. Les mêmes endroits, parce qu'il y a des endroits un peu stratégiques sur Limoges. Des grands axes, quoi.
Et puis sur Facebook, plus de 23 000 personnes ont déjà répondu qu'elles seraient présentes samedi, place de la Concorde à Paris. Au moins 150 000 se disent intéressées par l'événement. Hier soir, aucune autorisation de manifester n'avait été demandée auprès de la préfecture de Paris.
Maud Descamps pour Europe 1. Je vous parlais du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui donne les dernières informations en ce moment sur le déblocage de ces points de crispation avec les gilets jaunes. Christophe Castaner est l'invité des 4 vérités sur France 2. Il vient de réagir plus globalement. Vous allez voir, le ministre de l'Intérieur durcit le ton.
Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une dérive totale d'une manifestation qui, pour l'essentiel, était bon enfant samedi, et d'ailleurs que nous avons laissé se dérouler le mieux possible en mobilisant énormément de forces de l'ordre pour les protéger, les manifestants. Et pourtant, vous avez vu qu'il y a un très, très grand nombre de blessés, d'ailleurs, y compris sur nos forces de l'ordre, mais on y reviendra si vous le souhaitez. Ouais. Et aujourd'hui, on voit qu'on a une radicalisation avec des revendications qui ne sont plus cohérentes et qui vont dans tous les sens, et dont on sent bien que la volonté,
donc,
c'est de bloquer
la France. Donc il est temps que ça cesse, c'est ça que vous êtes venu vous dire ce matin ?
Mais c'est ce que j'ai dit dès hier, aujourd'hui, le droit de manifester est un droit essentiel. Mon rôle de ministre de l'Intérieur, c'est aussi de le garantir.
Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur à l'instant chez nos confrères de France 2. Et puis l'INSEE vient de publier les chiffres définitifs du chômage au troisième trimestre 2018. Le nombre de demandeurs d'emploi est stable à 9,1% de la population active.
Europe 1.
À suivre dans le journal, plus on tombe de haut, plus cela fait du bruit. Carlos Ghosn, le patron de Renault, est en garde à vue à Tokyo. Qu'est-ce qu'on lui reproche précisément? Information Europe 1 dans un instant. Bon réveil à tous.
.fr.
Votre matinale info, Nico Saliagas.
La suite du journal de 8h avec vous, David Doucan. C'est la chute de Carlos Ghosn qui fait la une de l'actualité, surtout de la presse ce matin.
Oui, il est en garde à vue à Tokyo. Les autorités japonaises le soupçonnent d'avoir caché aux services fiscaux la moitié de ses revenus. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi accusé de ce qui s'apparente à de l'abus de biens sociaux. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, nous a rejoint. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous avez des informations à ce sujet, Nicolas.
Oui David, on lui reproche aussi à Carlos Ghosn d'avoir utilisé des actifs du groupe à des fins personnelles. Alors le procureur de Tokyo n'en dit pas plus officiellement, mais à Tokyo on pense naturellement au jet de Nissan qui aurait pu servir à des déplacements privés. Il faut savoir que Carlos Ghosn pouvait, vu ses responsabilités, passer jusqu'à 110 nuits par an dans son avion. Alors forcément, parmi tous ces trajets, il est possible que certains aient eu un volet privé. La notion d'abus de biens sociaux, il faut le dire, n'a pas le même sens que chez nous au Japon. Les entreprises sont plus permissives, dirons-nous, et ferment les yeux sur des pratiques qui relèveraient chez nous de l'abus de biens. Il y a une sorte de zone grise, une forme de tolérance, mais quand on se fait prendre, eh bien évidemment, ça coûte très cher.
Une double question sur l'avenir. Est-ce que Carlos Ghosn peut rester patron de Renault? Ça paraît difficile à imaginer. Et surtout, est-ce que l'alliance Renault-Nissan est menacée?
Effectivement, rester chez Renault, c'est difficile. La garde à vue, vous savez, au Japon, peut durer jusqu'à 23 jours. Et ce qu'on me disait hier soir à Tokyo, c'est qu'à la suite de cela, la justice pourrait le contraindre de rester sur le territoire. Donc on ne voit vraiment pas comment il pourrait conserver ses fonctions chez Renault. Et puis évidemment, ça pose la question de l'avenir de cette alliance. Carlos Ghosn était celui qui avait la légitimité pour imposer des décisions à la fois à Paris et à Tokyo en faisant passer l'intérêt collectif de l'alliance au-dessus du reste. Et ça, on ne voit pas aujourd'hui qui peut faire la même chose.
Les informations de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Merci Nicolas.
C'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant.
Oui, et c'est cette date qu'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a choisi pour dévoiler sa stratégie de protection des plus petits. Ève Roger du service Société d'Europe 1 nous en révèle les grandes lignes.
L'objectif, c'est d'abord de repérer les situations à risque, les familles où les enfants sont en danger. On demandera par exemple aux PMI, ces centres de santé qui accueillent les tout-petits, d'identifier les femmes qui ont fait un déni de grossesse ou alors une dépression postpartum, ces maladies où les mamans ont du mal ensuite à s'occuper de leurs enfants. Les médecins aussi seront mieux formés à détecter les bébés secoués. Et puis on apprendra aux agents des caisses d'allocations familiales à être plus vigilants au moment charnière de la vie, un divorce, une perte d'emploi qui peuvent avoir des conséquences sur les enfants. Et puis enfin, nous tous sommes invités à être plus attentifs à ce qui se passe chez nos voisins. Un long clip financé par le gouvernement sera diffusé ce soir sur France 2. Des fenêtres éclairées dans la nuit derrière lesquelles on entend des coups, des insultes où l'on devine des violences sexuelles, des sanglots, des cris insoutenables qui ne s'arrêtent qu'au moment où un passant décide de prendre son téléphone et de composer le 119, le numéro d'appel Enfance en danger. L'an dernier, cette plateforme a reçu 470 000 coups de fil, dont un tiers venait de voisins ou encore d'enseignants ou de médecins inquiets.
Information signée Ève Roger, chef du service Société d'Europe.
Et rapidement vous dire que la ministre Agnès Buzyn confirme aussi ce matin le soutien du gouvernement à la proposition de loi du Modem qui vise à interdire les châtiments corporels. On en parle depuis quelques jours sur notre antenne. La députée Maud Petit qui est à l'origine de cette proposition sera l'invitée de Mathieu Béliard ce soir sur notre antenne à 17h40. C'était le journal de David Doucan, Jean-Paul Rouve. Merci d'être resté avec nous jusqu'à 8h.
C'est très agréable.
Très attentif à ce que nous disions dans les journaux.
J'adore ça, j'écoute, je vous écoute hein, tous les matins.
Mais vous avez commencé par faire de la radio, pardon?
Oui, à Dunkerque, Radio Libre, c'était Radio Corsair à Dunkerque, à l'époque quand les radios libres se sont ouvertes.
Vous faisiez la matinale?
Non, je faisais le dimanche matin, je faisais une émission humoristique le dimanche matin.
Ça a duré combien de temps?
Ça a duré 2 ans ou 3 ans, je me souviens plus, et c'était des radios payées par la mairie, enfin c'était, voilà. Et je me suis fait virer, parce que j'avais fait une vanne, est-ce que vous savez pourquoi les employés de la ville de Dunkerque ne regarde jamais par la fenêtre le matin?
Allez-y.
parce que sinon ils sauraient pas quoi faire l'après-midi.
Voilà. Ils vont être contents.
Et ils vont dégager.
Vos parents nous écoutent à Dunkerque ce matin.
Voilà. Alors, vous allez avoir un message, je pense, dans quelques instants, oui. Nikos, un SMS en disant ma mère nous écoute avec mon père qui parle pendant l'interview avec ma mère qui dit tais-toi, je n'entends pas. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Paul Rouve d'avoir été notre invité. Votre film Lola et ses frères sort en salle le 28 novembre. Émouvant, poignant et terriblement honnête. Il vous ressemble avec José Garcia, avec vous Jean-Paul Rouve, Ramzy, Pauline Clément ou encore Ludivine Sagné. Merci.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 8h14, coup d'œil à l'international avec Vincent Hervouette.
Et cette affaire qui n'en finit plus, Khashoggi, l'affaire Jamal Khashoggi, et l'Allemagne qui prend des sanctions contre les Saoudiens impliqués dans l'assassinat de ce journaliste, et la France s'apprête à en faire autant. Vincent Hervouette.
Oui, bonjour Nikos. Jamal Khashoggi est tellement plus grand mort que vivant. À Istanbul, il était un activiste en exil, condamné tôt ou tard à une forme d'impuissance plus ou moins bavarde. Et depuis qu'il a disparu, bien il réalise des prodiges. C'est Hercule aux enfers. Son fantôme a démasqué MBS, qui n'est plus un despote éclairé, mais une sombre brute. Mieux ou pire, l'acide dans lequel a été dissous Khashoggi mine le grand dessein de Donald Trump qui comptait sur les Saoudiens pour faire la peau aux djihadistes et forcer la paix avec Israël. Le mirage s'évanouit. Khashoggi a même réussi à faire d'Erdogan un justicier au service de la liberté de la presse, lui qui a enfermé des centaines de journalistes et qui en a mis davantage au chômage. Encore plus fort, la France va prendre des sanctions contre son client préféré, le ministre Le Drian, qui est allé plus souvent dans le royaume des deux mosquées que le plus dévot des pèlerins à la Mecque. Le ministre l'a annoncé donc hier soir sur Europe 1. On ne sait pas combien cette décision lui a coûté, mais sans doute très cher. Là où Khashoggi est immense, vraiment, beaucoup plus éloquent, mort que vivant, c'est au Yémen où Mohamed Ben Salman mène depuis 3 ans une véritable sale guerre.
Et les rebelles et le pouvoir vont négocier à Stockholm, sous la supervision de l'ONU, une sorte de règlement politique.
Oui, alors MBS lâche prise et du coup une trêve se met en place. L'aide humanitaire devrait reprendre via le port d'Odeida. Un accord pour échanger les prisonniers est sur le point d'être conclu. Et 14 millions de Yéménites au bord de la famine seront secourus. Enfin, ils comptent aux yeux du monde. Encore un effort et on va compter aussi les disparus. Les officiels parlent de 10 000 morts. Quel mensonge ! Il y en a peut-être 15 ou 20 fois plus, disparus dans l'indifférence générale, car MBS n'était pas traité comme Bachar el-Assad. L'assassinat de Jamal Khashoggi a tout changé. On peut dire qu'il n'est pas mort pour rien.
Le point de vue international de Vincent Hervouette, tous les matins sur Europe 1.
Europe 1,
il est 8h16.
Restez avec nous dans 2 minutes, l'interview politique avec vous, Audrey Crespo-Mara. Qui est votre invité ?
Eh bien écoutez, il est le président de l'Association des maires de France qui se réunissent en congrès à partir d'aujourd'hui. Congrès où Emmanuel Macron avait promis de se rendre, il n'y sera pas. François Barrois sera mon invité.
A tout de suite sur Europe 1.fr.
Il est 8h18, Nico Saliagas.
Le président de l'Association des maires de France, François Barouin, et votre invité Audrey Crespo-Mara.
Bonjour François Barouin.
Bonjour.
Président de l'Association des maires de France, dont le congrès débute aujourd'hui sans Emmanuel Macron. Pourtant, l'an dernier, il avait promis.
Je m'engage à une chose, c'est à venir chaque année rendre compte des engagements que je viens de prendre. Parce que c'est cela, l'esprit de responsabilité dans la République.
Vous dites que les maires regrettent son absence, c'est parce qu'ils sont déçus de ne pas pouvoir le huer ?
Non, d'abord tous les congrès en général sont agités. Moi-même comme ministre du budget, j'étais venu au congrès, on avait pris des mesures difficiles et ça avait un peu secoué, c'est pas très
grave.
Mais
il aurait été mal accueilli, il y avait de fortes chances, est-ce qu'il a eu peur de venir ?
Il aurait été accueilli de manière très républicaine, très respectueuse. Il y a beaucoup d'impatience. Il y a beaucoup d'incompréhension, mais il y a aussi beaucoup d'attente. Il est invité quand il veut.
Mais vous l'avez vu il y a 15 jours, est-ce qu'il vous a dit pourquoi il ne venait pas ?
Il ne m'a pas dit pourquoi il ne venait pas. On a pendant plus d'une heure discuté des sujets de discorde, de forme comme de fond. On a des difficultés, des tensions, des mauvaises manières. Le balance ton maire qui avait été relayé par ses équipes, je lui en ai parlé, resté en travers de la gorge. Il y a beaucoup de souffrance également. Et au fond, nous sommes les soutiens et les soutiers en quelque sorte de la République du quotidien. Nous devrions être aux côtés en permanence du président de la République. Nous ne le sommes pas, donc il faut mettre sur la table les problèmes de fond, de forme, tourner cette page. Ce congrès devrait permettre d'aborder une nouvelle étape.
François Barouin, plutôt que de venir, Emmanuel Macron a préféré écrire une lettre à tous les maires de France. L'attention est délicate, mais le geste un peu lâche ?
Je ne dirais certainement pas cela. Le président de la République a le droit d'écrire à tous les maires.
Vous l'avez lu cette lettre ?
Je l'ai lu, bien sûr.
Qu'y a-t-il dedans ?
Il y a l'affirmation de ces trois piliers sur la préservation des dotations, sur des engagements qu'ils souhaitent tenir pour les bassins de proximité. Le problème, c'est que factuellement, ça ne répond pas toujours aux orientations qu'ils donnent. Et c'est ça la difficulté. On a des tensions de nature, de forme, comme je l'ai dit. Lorsque les maires défendent les emplois aidés parce que c'est la dernière bouée de sauvetage pour des gens qui sont en difficulté, on leur répond que c'est des clientélistes et qu'ils achètent des voix. C'est insupportable et c'est insultant. Lorsqu'on dit il y a quand même une baisse des dotations, ce qui factuellement est vrai, puisque les deux tiers des communes ont perdu.
Parce qu'Emmanuel Macron dit l'inverse. D'abord la taxe d'habitation, si vous voulez bien.
Je voudrais juste terminer. On nous explique qu'on raconte des carabistouilles. Donc le problème des carabistouilles, c'est que c'est plutôt à l'intérieur du gouvernement que dans la manière dont nous, on reçoit, d'une certaine manière, l'argent pour financer les services publics.
Alors, dotation et taxe d'habitation. D'abord, la taxe d'habitation, la suppression. Il paraît que vous en voulez beaucoup à Gérald Darmanin d'avoir révélé aux Français les noms des maires qui ont augmenté le taux de la taxe d'habitation. Le ministre des Comptes publics n'avait pas le droit de leur dire la vérité ?
Ministre qui est en charge du budget et qui utilise l'administration fiscale pour publier une liste de gens qui augmentent la taxe d'habitation ne respecte pas en quelque sorte l'esprit et la lettre de la Constitution puisque la libre administration des collectivités locales est garantie par notre loi fondamentale.
C'est de la malhonnêteté ce que vous dites ?
Je dis pas ça non plus. Pas du tout. Un maire qui augmente ses impôts ne le fait pas pour faire plaisir à un gouvernement ou faire déplaisir à un gouvernement.
Emmanuel Macron,
il les augmente parce qu'il a des projets, parce qu'il a des devoirs, parce qu'il y a une structure qui est lourde, peut-être parce qu'il y a une dette qui est structurée avant lui. C'est pour cela.
Et quand Emmanuel Macron cherche à augmenter le pouvoir d'achat des Français en baissant de 30% la taxe d'habitation, vous ne serez pas normal qu'il se défende contre les maires qui sabotent sa politique ?
Alors ça c'est... Il sabote pas. Un maire augmente ses impôts. Il est indépendant. Il a un mandat. Il est élu. Une commune, c'est pas une succursale de l'État.
Emmanuel Macron aussi est élu.
Une commune, c'est pas une succursale de l'État. Encore moins une filiale. Les maires, c'est des élus. Ils sont mandatés. C'est pas des fonctionnaires. Ils sont pas là pour avoir le petit doigt sur la couture et agir sur ordre. On est des agents de l'État dans certaines missions et on est élus. Mandaté.
Donc on
ne
touche pas à la taxe d'habitation.
La taxe d'habitation, vous aviez déjà presque la moitié des Français qui ne la payaient pas. Donc ceux qui ne la payaient pas ne verront pas grand-chose sur l'augmentation du pouvoir d'achat. Et si on va sur ce terrain-là, l'addition de la CSG et des taxes crée, à mon avis, plus d'interrogations aujourd'hui dans l'actualité sur l'avenir du pouvoir d'achat que la mesure de la taxe d'habitation.
François Baroin, vous accusez Emmanuel Macron de baisser les dotations en collectivité. Mais si je me souviens bien, à un moment donné, vous avez soutenu François Fillon à la présidentielle et dans son programme, il prévoyait de baisser de 7,5 milliards les dotations. Pourquoi reprocher à Emmanuel Macron ce que vous alliez mettre en place avec François Fillon ?
Non, puisque vous faites appel à votre mémoire, je vais faire appel à la mienne et puis on va la partager ensemble à cette antenne. Lorsque j'étais chef de file des législatives, pour la droite et le centre, nous avons corrigé le projet de François Fillon, nous avons annulé les propositions d'augmentation de la TVA et nous avons ajusté le tir sur l'effort demandé, ce qui est normal, à toutes les sources de dépenses, dont les collectivités locales
et les
communes.
Mais il y avait un effort demandé.
Un effort demandé, mais qui n'a rien à voir avec celui qui est proposé. C'était d'ailleurs la moitié.
Emmanuel Macron dit qu'en 2018, les dotations des communes rurales ne baissent pas d'un centime. Donc il ment ?
En tout cas, ça ne correspond pas à la réalité. Vous avez plus de 22 000 communes qui ont perdu des dotations. Pas exclusivement, tout simplement parce que c'est pas parce que vous gelez, c'est la technique, mais j'y vais très court.
Oui,
c'est pas
parce que vous gelez la dotation.
C'est pas parce que vous gelez la dotation. Et d'ailleurs, la dotation, c'est pas une subvention, on fait pas l'aumône.
La dotation globale, elle a augmenté de 80 millions d'euros, en 2018.
Elle a été gelée. Et les autres dotations, comme c'était une enveloppe que Bercy a fermée, de telle sorte que de l'argent a été pris à certains pour le donner à d'autres.
Aux communes les plus riches pour les communes les plus pauvres. Est-ce que vous trouvez ça injuste que les riches aident les pauvres ?
Justement, pas toujours. Et c'est tout le problème. Ça fait partie des débats, ça n'est pas le seul. Nous avons devant nous, et nous le verrons demain, une liste de revendications. Nous voulons rentrer dans une phase de négociation. Négociation sur, effectivement, l'avenir de la compensation de la taxe d'habitation. C'est important. Et c'est pas les maires qui refusent de serrer la ceinture. C'est de l'argent pour financer des services publics, pour développer des territoires. Et le problème en profondeur, c'est que tout est déséquilibré.
La taxe d'habitation, c'est 20 milliards par an pour les communes. Hein,
probablement un peu plus. D'ailleurs, c'était une mesure qui n'a pas été très bien calculée et pas très bien calibrée. C'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui pour le gouvernement de trouver une piste de sortie. On est prêt à l'aider. On souhaite un dégrèvement complet, le remboursement pour financer ce que l'on a à financer. On a devant nous une révision constitutionnelle. On veut consacrer la commune. La France ne peut pas se résumer à une grande capitale dont nous avons besoin et 6 métropoles. Elles sont en train, ces métropoles, de fonctionner comme des aspirateurs qui prennent toutes les énergies de tous les territoires.
Donc Emmanuel Macron reste le président des riches et président des villes, ce que vous dites ?
En tout cas, la politique fait une ultra-concentration et la France qui se lève, qui demande un espoir en ce moment, nous sommes la caisse de résonance et nous avons lancé des alertes depuis, nous sommes lanceurs d'alerte en quelque sorte depuis plusieurs mois sur la réalité de ce que nous vivons sur le terrain. Il faut rééquilibrer, il faut rentrer dans une nouvelle phase de décentralisation. L'ultra-centralisation est probablement le plus sûr chemin pour aller dans une impasse pour le pays. Et Emmanuel Macron, que je respecte profondément, et qui est courageux et qui a de l'audace, ne peut pas se retrouver seul face au peuple. Les maires sont là pour être des acteurs du quotidien, on n'est pas là pour soutenir sa politique, mais on est là pour assurer la cohésion sociale, et c'est difficile. La moitié des maires annoncent dès à présent qu'ils ne se représenteront pas. Ce sont les fantassins de cette démocratie du quotidien. C'est très préoccupant, et on ne peut pas rester sans bouger.
À l'Élysée, certains vous accusent, François Baroin, d'organiser la révolte des maires et de ne pas être un partenaire fiable, en gros de faire de la politique politicienne, puisque vous êtes de droite.
Je ne suis pas sûr que ce type de compliment soit le meilleur moyen de renouer un dialogue dont j'avais compris que le remaniement était fait pour restaurer la qualité des relations qu'il y avait avec les collectivités locales. Mais mettons cela de côté, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le fond. Tout procède de l'Élysée, tout procède du président de la République. Et quant au maire de France, c'est une institution qui a 110 ans. Vous avez des communistes, vous avez des socialistes, vous avez des centristes, vous avez des républicains et vous avez des non-inscrits. J'ai l'honneur d'être celui qui est en charge de produire le consensus, c'est-à-dire le plus petit dénominateur commun ou le plus grand des multiplicateurs communs. En quelque sorte, j'ai l'honneur de porter ce qui est des revendications partagées par toutes les sensibilités politiques. Il faut l'accepter, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on est indigne, c'est pas parce qu'on a des contre-propositions qu'on est irresponsable.
Merci François Baroin, et je précise que vous verrez Emmanuel Macron demain à l'Élysée.
Absolument.
Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale tous les jours à 8h15, et puis pas mal de réactions sur votre voix, François Baroin. Une voix radiophonique, je dis, c'est un ancien d'Europe 1.
Mais oui, qui a démarré ici. Alors un petit mot quand même pour vous et pour toute l'équipe, j'ai compris que c'était la dernière semaine à François 1er, je peux vous dire qu'en venant ici ça m'a fait quelque chose.
Merci beaucoup pour ce témoignage. On sera dans le 15e, on vous attend aussi là-bas pour d'autres interviews politiques avec Audrey Crespo-Mara. Et puis on va continuer de parler du ras-le-bol des maires de France à 9h avec Wendy Bouchard dans le tour de la question. À suivre, la revue de presse de David Abiker, Carlos Ghosn, chute d'un premier de cordée, et puis à 8h45 il arrive le dernier de la classe, celui qui nous embête, Nicolas Cantelou et sa revue de presse. À tout de suite.
Europe 1.
Et tout de suite la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Mon cher Laurent Cabrol.
Allez, on va diviser la France en trois, si vous le permettez.
Je vous en prie.
Je vais faire mon petit découpage, parce que c'est pour être précis.
Vous voulez un stylo?
Un ciseau, peut-être.
Sur le Gard, l'Hérault, le delta du Rhône, des pluies surtout ce matin. Sur l'Auvergne, les Vosges, le Pays Basque et le Midi-Pyrénées, des pluies cet après-midi. D'accord. Voilà pour les pluies. Neige et pluie maintenant, ou pluie et neige comme vous voulez, selon les cas, selon les températures. Normandie, Picardie Nord, Île-de-France, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Bourgogne, Rhône-Alpes, Centre et Morvan. Bien souvent, déjà, il neige dans ces régions et il neigera encore, je crois, pratiquement jusqu'à midi. À Paris, attention, il pourrait y avoir des flocons dans la fin de journée, et peut-être du verglas demain. D'accord. Les éclaircies maintenant, Val-de-Loire, Bretagne, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Côte d'Azur. Les températures, entre 2 et 17 degrés, 2 en banlieue parisienne, 17 à Ajaccio, passant par 4 à Lille, 6 à Bordeaux, 8 à Lyon et 9 à Toulouse.
Merci. A tout à l'heure, Laurent Cabrol, pour un autre point météo.
Nous sommes le mardi 20 novembre, il est 8h31.
7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1.
Et on retrouve David Abiker pour sa revue de presse, Nikos.
Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Alors à la une ce matin, vous avez des premiers de cordée qui dégringolent. Et puis vous avez une photo, mais c'est une photo ancienne. C'est une photo d'Emmanuel Macron et Carlos Ghosn. Je dis ancienne, elle a 11 jours, hein, 11 ou 12 jours.
D'accord.
Carlos Ghosn et Macron à Maubeuge le 8 novembre dernier pendant l'itinérance mémorielle, souvenez-vous, ils étaient venus annoncer la création de 200 CDI l'année prochaine et d'un investissement industriel de 450 millions d'euros. C'est la photo d'un président et d'un premier de cordée qui, en contrepartie d'un salaire astronomique, joue son rôle au service du pays. Mais depuis l'arrestation à Tokyo du patron de Renault-Nissan, nombreux sont les éditorialistes à suggérer ce matin que Carlos Ghosn entraîne dans sa chute la fameuse théorie du premier de cordée. Ils font même un lien entre cette affaire et le mouvement des Gilets jaunes. Pour Jean-Emmanuel Ducoing de l'Humanité, Ghosn a beau être l'incarnation vivante de la caste des premiers de cordée, cette fraude fiscale aura des conséquences au pays de Macron. Et dans La Voix du Nord, Hervé Favre enfonce le clou. Alors que la crise des Gilets jaunes alimente chez nous un débat sur le consentement à l'impôt, le mauvais exemple vient d'en haut. À condition bien sûr que se confirment les faits dont le fisc japonais accuse Carlos Ghosn. Et je vous conseille ce matin d'être attentif dans le Figaro au rôle joué dans cette affaire par Hiroto Saikawa, bras droit de Carlos Ghosn au Japon, qui confiait hier à la presse, j'ouvre les guillemets, « Nous devons revoir la manière dont nous travaillons dans l'Alliance avant de dénoncer la concentration des pouvoirs entre les mains de celui qui l'a nommé en 2016. » Ça s'appelle retourner son kimono. Et d'ajouter que ce rapport au pouvoir était le côté obscur de l'ère Carlos Ghosn. L'affaire ne fait que commencer, prévient Sébastien Lacroix dans L'Union. Et c'est c'est à la justice japonaise d'enlever le fameux côté obscur.
Reste de l'actualité ce matin, David Abiker, une addition de colère.
Les gilets jaunes, les infirmières, mais d'abord les maires en congrès aujourd'hui sur fond de colère, titre Ouest France. Des élus fatigués comme jamais qui ont lancé sur internet le mot d'ordre « Ma commune, j'y tiens ». Ils en ont ras l'écharpe, explique également le Parisien aujourd'hui en France qui tire le portrait de Bernard Aubry, 68 ans, maire d'Harcourt dans l'Eure, 1000 habitants, élu en octobre dernier car son prédécesseur a démissionné épuisé. Bernard Aubry, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Ben, il fait la circulation lui-même. Il oriente les poids lourds qui traversent son village pour qu'ils empruntent la déviation le temps de finir la rénovation d'une nouvelle route qui va coûter 150 000 euros. Ça, c'est une toute petite partie de ce qu'il fait dans la journée. 150 000 euros quand l'État vous a retiré 15 millions d'euros de dotation en 4 ans, ben, c'est beaucoup, explique-t-il.
Et des maires, il y en a plein les journaux ce matin, David.
Oui, c'est un peu eux les premiers de cordée du territoire, mais eux, ce n'est pas de l'argent qu'ils font ruisseler. C'est de l'utilité sociale, exactement comme les 600 000 infirmiers et infirmières qui sont appelés aujourd'hui à se mobiliser devant les préfectures et dont le Midi Libre énumère les raisons du ras-le-bol. Sous-effectif, violence, management déficient, trop de patients, les infirmières se sentent négligées par le plan santé. Mais elles ne sont pas les seules. L'indépendant catalan rappelle que Pôle emploi et les impôts sont en grève à Perpignan. Sud-Ouest évoque le malaise des professions judiciaires alors que l'Assemblée examine depuis hier le projet de loi de réforme de la justice. Alors pourquoi je vous parle des maires, des infirmières, des agents de Pôle emploi, des agents des impôts ou des professions de justice alors que les gilets jaunes squattent les unes de tous les journaux régionaux? Eh bien, parce qu'ils sont tous, à leur façon, des premiers de cordée, mais des premiers de cordée à l'envers. Vous les prenez par l'autre bout. Un premier de cordée, c'est pas seulement quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. C'est une personne qui est en première ligne sur le terrain du service public. Je vous en parle aussi parce que ces agents de l'État, le plus souvent, ils sont payés avec quoi ? Avec nos impôts. Ces mêmes impôts dont les gilets jaunes expliquent qu'ils sont confiscatoires et parfois même qu'ils ne servent à rien. Peut-être, mais quand les slogans deviennent démagogiques, quand ils pourfendent le fiscalisme sans évoquer la contrepartie en termes de services, alors ils oublient que ces taxes qu'ils détestent financent des prestations dont ils profitent. Croyez-moi, s'ils continuent comme ça, les gilets jaunes vont finir par rendre l'impôt à la mode.
On va terminer, David Abiker, avec un programme télé diffusé hier sur France 3 pour la première fois.
Et ça s'appelle, tiens, ça s'appelle Premier de Cordée, c'est une coïncidence, hein.
Oui.
C'est un jeu où deux familles sont en compétition pour gravir un sommet. Le critique du Parisien aujourd'hui en France explique ce matin sur Internet qu'il n'a pas bien compris le sens de cette émission. C'est peut-être un des problèmes qui se pose aujourd'hui à cette métaphore du Premier de Cordée imaginée par le Président pour vanter les mérites de la réussite économique. Non seulement on se demande si les derniers de cordée n'ont pas mérité parfois d'être les premiers, mais on s'interroge qui plus est sur les règles, l'équité des règles qui permettent de gagner le sommet.
Autant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer ?
Jean Ferrat sur Europe 1 ce matin pour clore votre revue de presse, mon cher David Abiker.
Europe 1.
Mais il est 8h36.
À suivre, c'est votre journée. On va passer un coup de fil à l'actrice Charlotte Valandré, qui est aussi chanteuse. Elle sera en concert le 29 novembre au Zèbre de Belleville, à Paris. 8h45, elles arrivent, les voix du Trublion, Cantelou, accompagnée de Julie. À tout de suite sur Europe 1.
7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Il est 8h38, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dénonce la dérive totale et la radicalisation du mouvement des Gilets jaunes. Ce matin à Caen, des gaz lacrymogènes ont été utilisés pour déloger les manifestants qui occupaient le périphérique sud. 4 arrestations, alors que sur l'île de la Réunion, des scènes de violence avec des incendies et rackets d'automobilistes. Carrefour annonce la fermeture de tous ses magasins par crainte de pillage. Le taux de chômage au troisième trimestre reste stable, 9,1% de la population active selon l'INSEE. Sur un an, le taux de chômage recule d'un demi-point au niveau du début 2011. Et puis, première nuit en garde à vue, on vous le dit dans nos éditions, pour Carlos Ghosn à Tokyo, le patron de Renault-Nissan Mitsubishi aurait dissimulé des millions au fisc japonais et il aurait aussi emprunté le jet de Nissan pour son usage personnel.
Europe 1. Europe 1.
Nico Saliagas, c'est votre journée.
Chaque jour, coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité. Ce matin, nous sommes en ligne avec Charlotte Valandré. Bonjour Charlotte.
Bonjour Nico, bonjour tout le monde.
Alors vous êtes actrice, vous êtes sur TF1 dans Demain nous appartient, vous écrivez des livres et vous chantez aussi. Ça date de quand cet amour pour la musique et la chanson ?
En fait, depuis l'âge de 15 ans, j'avais envie de chanter et le cinéma est venu vers moi. Donc, je n'ai pas suivi cette piste. Si j'avais pu choisir à ce moment-là, je crois que je me serais tournée vers la musique. Et puis, en fait, elle m'a accompagnée pendant toute mon adolescence, pendant beaucoup d'années, quand je me suis reconstruite après ma greffe aussi. Et puis, l'idée de, il y a 8 ans, j'ai eu une rencontre avec un couple d'amis, Karine Ersant et Victor Barrange, qui m'ont écrit un album sur mesure. Et puis, il y a un an, voilà, j'ai décidé d'y aller à fond, de faire plaisir, enfin, parce que j'avais retrouvé confiance en moi, je me retrouvais légitime et du coup voilà, c'était le moment de le faire. Donc bah voilà, depuis le début de l'année, je fais quelques concerts et dont notamment bah un, comme vous l'avez dit, le 29 novembre au Zèbre de Belleville pour fêter mes 50 ans.
50 puisque, ans.
Voilà, ce jour-là, j'aurai 50 ans, que c'est une victoire sur la vie, que je suis tellement heureuse, alors qu'on me donnait à 17 ans quelques mois à vivre, ouais, d'être arrivée jusqu'à maintenant, de profiter de cette vie qui est cruelle parfois, et elle aussi, avec tout ce qu'on entend justement tous les matins dans les infos qui sont dures. Je propose, moi, qu'on vienne passer un moment où on sort de bonne humeur, un moment tous ensemble, un moment avec des chansons, avec pour fêter cette victoire sur la vie, et c'est aussi grâce
c'est une
à
fête
ceux qui
aussi
m'ont soutenu.
Ouais.
C'est une fête, oui. Ah oui, ça va être une fête. Il y aura un gâteau, il y a du champagne.
Ouais, mais puis il y a surtout le lien avec les gens qui vous suivent depuis toutes ces années. C'est vrai.
Exactement.
Que lorsque vous aviez 17 ans, vous en avez parlé, vous avez des soucis de santé à une autre époque, vous avez contracté le virus du sida, ensuite il y a eu la greffe. Mais
oui,
à 17 ans, vous vous êtes fait une promesse, Charlotte Valandré.
Oui, j'ai fait une promesse le jour de l'an, quand j'avais 20 ans, c'était d'arriver à avoir 50 ans. On m'avait demandé, qu'est-ce que tu souhaites pour cette année ? J'ai dit, bah, d'avoir 50 ans. Et bah ça y est, j'y suis, et c'est tellement de bonheur, c'est tellement de d'émotion aussi.
Qu'est-ce qu'on apprend justement d'une vie pleine d'épreuves ? Qu'est-ce qu'on apprend à ne garder que l'essentiel, à ne pas se plaindre, à mettre
on
de côté les petits bobos ?
Je me jamais vraiment plus plaint énormément, ouais, hein, mais on apprend au final à vivre le moment présent, à pas se projeter dans le futur parce qu'on sait jamais ce qu'il va être et à ne plus être dans le passé ni la culpabilité. Alors ça a pris énormément de temps, c'est pour ça que je suis, je crois, d'autant plus heureuse de fêter ces 50 ans. C'est qu'on pense plus à ce qui était difficile, et pourtant Dieu sait que mes années après ma greffe ont vraiment été vraiment très très difficiles. Donc aujourd'hui c'est vraiment que du bonheur. Et il y a quelque temps j'avais fait une chouquette party, j'avais réuni les gens à la Tour Eiffel, et c'est ma chouquette partie de mes 50 ans en fait.
Vous serez sur scène le 29 novembre au Zèbre de Belleville à Paris, et je terminerai avec ces mots, ce sont les vôtres: l'optimisme vrai, ce n'est pas d'éviter la vie, c'est de lui faire face entièrement, y croire en avançant avec courage, vérité et ambition. Merci Charlotte. Petit extrait de Dipa qui sera dans l'album de Charlotte Valandré qui sort le 29 novembre. Elle était notre invitée ce matin.
Europe 1.
Il est 8h43 à suivre, Nikos.
Julie est dans le studio, elle prend des notes très concentrées. Elle regarde la dernière version.
Ah,
parce
la dernière version,
que il faut dire à nos auditeurs ce matin qui nous écoutent peut-être sur la toute nouvelle application que vous pouvez télécharger sur Internet et sur votre téléphone, c'est que Nicolas Canteloup écoute la matinale, et la matinale évolue dès 7h du matin. Et nous arrivons dans quelques instants
aussi,
avec la revue de presque. Et Nicolas Canteloup en pleine forme, à tout de suite.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Il est 8h47.
Vous êtes en voiture, vous êtes tranquille à la maison, vous êtes déjà au boulot et vous essayez d'écouter discrètement avec vos écouteurs, Nicolas Canteloup. Voici la revue de presque avec Julie et Nicolas.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup.
Et on commence avec vous, Nikos, pour le rappel du titre principal de l'actu.
Salut, salut ma Julie, salut à tous. C'est Nikos, animateur, présentateur, journalisteur, mais pas seulement. Spider-Man également, oui, je suis l'homme araignée d'un matinal. Jean-Paul Rouve s'est pris dans ma toile ce matin. Oui, c'est ma spécialité, je prends l'invité de 7h45 et je le garde le plus longtemps possible. C'est mon défi tous les matins. Je redoute pour tout vous dire, cher Wendy, cher Jean-Michel, le jour où, à ma question, vous restez pour le journal, l'invité répondra non. Non, je me barre, ça me saoule. Ça peut piquer à l'emploi. Mais l'actu, vous le savez, ce n'est pas ça, nous l'avons répété, l'actu, ce sont les déboires de Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, que nous avons ici même en exclu surround ce matin, parce que Europe 1 va plus loin, même jusqu'au Japon, à Pékin, en direct, où nous avons...
Pékin.
Ou à Shanghai, peut-être, je ne sais pas. Je vous laisse, je suis là, on sait qu'il y a besoin.
Tokyo.
Bonjour Carlos Ghosn.
Moshé, bonjour à votre équipe de petits ouvriers.
Carlos Ghosn, vous êtes PDG de Renault, Nissan, Mitsubishi.
Je vous demanderai d'être plus exhaustif, Madame Julie. Je suis le PDG de Renault, Nissan, vous l'avez indiqué, Mitsubishi, Moulinex également, Rowenta, Bosch, Electrolux, Siemens, De Dietrich. Je fais aussi un petit peu dans les cuisines Vogica, d'où mon salaire sympathique, vous l'aurez compris.
Oui, sympathique, c'est le mot. Hein. Vous êtes accusé d'abus de biens sociaux. Vous auriez utilisé le jet de Nissan à des fins privées.
Écoutez, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, j'ai commis, je l'admets ici, car c'est ma culture, des négligences. Je dois concéder que j'ai également utilisé la peinture noire satinée de Renault pour me teindre les cheveux et le résultat est flagrant. On l'a tous constaté, c'est moche. Je vais donc porter plainte contre Renault Nissan. D'ailleurs, à ce titre, vous ne voulez pas que je devienne PDG d'Europe 1. Vous savez que je prends 45 000 euros par jour, mais vu mes déboires en ce moment, je peux vous prendre, faire un tarif à 40 000 jours.
Non mais ça va aller, on n'a pas trop besoin de vous. Merci, merci.
Je reste en sécurité au besoin.
Édouard Philippe s'est exprimé dimanche soir. Il a dit avoir entendu les Français. Bonjour, monsieur le Premier ministre.
Bonjour. Je suis à l'écoute des Français, je vous ai entendu. Vous m'avez dit bonjour, et comme je vous ai entendu, mais je vous réponds bonjour.
Oui, bon, d'accord. Vous avez donc entendu les gilets jaunes. Vous allez baisser les taxes, peut-être ?
Alors, pas du tout. Ah. Jamais de la vie, même. En revanche, j'ai une bonne nouvelle.
Ah, vous allez baisser les impôts ?
Alors, ce serait pas idiot, mais non. Non, jamais de la vie non plus. Non, la bonne nouvelle, c'est que M. Appatil le sait, c'est que nous avons un cap. Et nous n'en changeons pas, nous avons un cap. Au gouvernement, on a un cap. Les gilets jaunes, eux aussi, ont un cap. Enfin, c'est un CAP. Hein, vous voyez, cap, disons, vous voyez qu'il vaut mieux nous faire confiance à nous plutôt qu'aux ouvriers.
Donc, rien du tout, quoi.
Voilà, exactement, c'est le mot. Rien. Les gilets jaunes n'auront rien. D'ailleurs, Emmanuel Macron a été très clair à ce sujet. Il m'a dit, cher Édouard, il n'y a absolument rien à annoncer, donc je préfère qu'il y aille toi, parce que parler pour ne rien annoncer ou ne rien dire, ce qui vaut à peu près la même chose, pour le coup, tu es le mieux sur là-dessus. Hein. Donc j'étais très bon, je n'ai rien annoncé.
Eh ben merci Édouard Philippe, voilà. On va en rester là hein, pour aujourd'hui. Il n'y a pas que le prix du gasoil qui s'enflamme, la sécheresse a entraîné également une flambée des prix de la pomme de terre.
Je dis non.
Gérard Larcher, bonjour.
Le gasoil, bon, on peut s'en passer. Mais les patates, franchement. Jean-Michel, Monsieur Cabrol, cher Nick, Madame Dacosta, les patates ne touchent pas aux patates, car si le prix de la patate s'envole, ce sont les frites qui vont être impactées. Et là, je tiens à citer Monsieur Jean-Paul Rouve, qu'on a entendu à 7h45. Oui. Des frites.
Oh non, non, le prix de la pomme de terre est passé de 40 euros la tonne à 280 euros.
Mais écoutez, il n'y a pas que les frites qui sont impactées, il y a aussi du coup les chips, le gratin dauphinois, et les pommes rissolées qui baignent dans l'huile, et la purée, le hachis par
oui,
entier,
bon.
Trois couches de pommes de terre, le hachis par entier, sinon c'est pas du vrai. Et les pommes de terre farcies.
Oui, c'est bon, on a compris.
La pomme de terre.
On a compris, merci monsieur Larcher.
Bon appétit.
Encore un mot du célèbre patron de Nissan, Carlos. Carlos Ghosn, qui est donc accusé par la justice japonaise d'avoir dissimulé une partie de ses revenus au fisc japonais. Bonjour, Patrick Balkany.
Oh, mais non, mais... Pourquoi vous faites appel à moi? Je n'y connais rien en bagnole. Un peu d'autodérision, Madame Bouchard. Non, ça mais fait pas de mal.
C'est pour votre autre compétence qu'on vous interroge. Vous pensez quoi de ces accusations de dissimulation au fisc japonais?
Alors, écoutez, je pense que Monsieur Ghosn est innocent. Enfin, Monsieur Apathy ne me contredira pas. Une feuille d'impôt, c'est déjà très compliqué en français, mais alors en japonais. D'ailleurs, je pense que mes feuilles d'impôt à moi sont en chinois. Je n'y comprends rien. C'est pour ça que d'ailleurs, je n'ai jamais rien déclaré.
En tout cas, Carlos Ghosn quitte Nissan par la petite porte.
Si vous me permettez, j'ai envie de dire Carlos is gone.
Oh là là, oui.
C'est une vanne internationale que comprendra seulement Nikos Aliagas. Non, j'explique pour les couillons qu'il ne parle pas anglais.
Oui, mais c'est trop gentil à vous. Merci. On va vous laisser. Merci, monsieur Balkany. Et on revient sur cette proposition d'un député républicain, Julien Aubert, qui veut imposer un prénom français aux étrangers qui demandent la nationalité française. Bonjour, Marine Le Pen.
Oui, bonjour, madame Leclerc. Dites donc, ça commence à suffire.
Quoi ?
Non mais attendez, vous nous piquez nos idées pendant combien de temps chez les Républicains, franchement ?
C'est vrai que là, on dirait une proposition d'extrême droite. Hein.
Mais bien sûr, déjà que Laurent Wauquiez pique les dérapages sur les nazis de Papounet, il nous reste quoi ?
Il ne vous reste pas grand-chose, effectivement.
Et voilà. Je demande officiellement et solennellement à tous ceux qui en ont assez et que les Républicains nous volent notre racisme de descendre dans la rue avec des gilets bruns. Voilà.
Les gilets bruns.
Oui, les gilets bruns.
C'est vrai que vous avez déclaré être d'accord. C'est vrai que vous avez déclaré être d'accord avec cette idée d'un prénom français imposé.
Mais bien sûr, c'est une évidence. Écoutez, prenons un exemple. Quelqu'un à qui on a donné la nationalité récemment, Monsieur Mamadou Gassama. Vous vous souvenez qui a sauvé une petite fille au cinquième étage d'un balcon.
Oui, c'est ça.
Voilà, tout le monde a un souvenir ce jeune homme. D'accord, on lui donne la nationalité française. Mais en revanche, dorénavant, il faudrait qu'il s'appelle Jean. Voilà, Jean Mamadou. Voilà, c'est joli Jean Mamadou. Hein, monsieur Cabrois, Jean Mamadou, il pourrait écrire le Bébé de Chaud d'ailleurs.
Ah, le Bébé de Chaud, oui, ça c'est ça.
Jean Mamadou, c'est drôle.
Oui, c'est ça, qui était l'auteur du Bébé de Chaud. Mais non, c'est ridicule.
Écoutez, n'expliquez pas les vannes aux auditeurs. De façon éhontée, que Pékin n'est pas au Japon, mais pour qui prenez-vous aux auditeurs?
Ça va pas.
Donc, vous disiez quoi? C'est quoi votre question?
Bon, bah écoutez, je trouvais que tout ça était ridicule. J'avais peur que ce soit couvert par les rires.
S'il vous plaît, ne pouvez pas. Le temps d'antenne au Front National est déjà réduit. Ne pouvez pas. Quand je vois l'équipe de France de football, monsieur Aigas, championne du monde, eh bien j'ai honte à ma France.
Mais pourquoi
Ousmane Dembélé. Ousmane. Vous imaginez, alors on apprend que j'entends dire que monsieur Apathy reproche qu'on appelle un boulevard Pasqua. Ousmane. Et pourquoi pas non, mais vous imaginez si un jour on donne le nom d'une rue. Le boulevard Ousmane, c'est ça? Non, maintenant il s'appellera le boulevard Jean-Patrick Dembélé. Voilà, le faire plier.
T'es en forme, Complot, hein, il est bon ce matin.
De qui parlez-vous?
Merci Marine Le Pen.
J'en prie.
Cette semaine sort l'album posthume d'Alain Bachung. Laetitia Hallyday, bonjour.
Oui.
Au secours.
Rien que sur le oui, c'est génial. Vous nous disiez hier que ça ne vous choquait pas de faire des albums avec des bandes sonores qu'on retrouve un peu plus tard.
Ah oui, Julie l'a fait. Moi, je dis, si on retrouve des bandes et que c'est bien, il faut les offrir aux fans. C'est la moindre des choses. Enfin, les offrir en échange qu'ils nous donnent des sous, bien sûr.
Oui, on avait compris, oui.
D'ailleurs, j'ai un scoop. J'ai retrouvé, tu sais quoi, fait Julie. Tu sais quoi, Céline, j'ai retrouvé des nouvelles bandes de Johnny qui vont bientôt devenir des chansons.
Ah, vous nous les avez apportées, ces bandes?
Oui, hein? Alors il y a une chanson sublime sur l'absence d'un couple, mais qui cherche une solution pour se parler quand même.
Ah.
Écoutez ça, c'est bouleversant.
Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Laetitia et Johnny? Nous ne sommes pas là pour l'instant. Et vous pouvez laisser un message après le bip.
Non mais attendez Laetitia, c'est pas une chanson ça, c'est le message du répondeur.
Je sais pas si c'est une bande que j'ai retrouvée dans une petite boîte avant de visiter Johnny près du téléphone. Attends, non mais j'en ai une autre qui est sublime. Ah. C'est l'histoire d'un homme seul qui veut faire du ménage dans sa vie.
Eh ben écoutez, on va l'écouter. Oula.
Oui, Laetitia, c'est Johnny. Je suis à Carrefour Market. Est-ce qu'on a encore du sopalin? Est-ce qu'on a encore du sopalin?
Ah oui, c'est beau, on dirait du Jean-Jacques Goldman. J'espère que vous avez tous l'acheté pour Noël.
Il est terrible, terrible. Nicolas Canteloup et Julie, tous les matins à 8h40. Vous nous faites du bien, chers amis. À tout de suite. Le tour de la question avec vous, Wendy Bouchard, dans quelques minutes, à partir de 9h, voire 9h et quelques poussières de secondes. On en parle depuis ce matin, de la grogne des maires.
Oui, vous avez diffusé la résignation d'un de ses élus. Un maire actuel sur deux ne souhaite pas se représenter en 2020. Vous en avez parlé aussi avec François Baroin. Alors, on va prolonger ce débat. Est-ce que vous comprenez cette lassitude, cette colère aussi? C'est un mandat, une mission qui exige beaucoup, beaucoup de temps, peu de rémunération. Si vous en êtes, appelez-nous au 3921 et on fait le tour de la question sereinement ce matin. Et puis à 10h, je vais vous parler d'une expo qui arrive vendredi au Grand Palais autour de Michael Jackson. Comment il a inspiré aussi l'art contemporain, d'Andy Warhol à Jeff Koons, plasticien, vidéaste, etc. C'est très intéressant et assez inédit comme traitement du sujet.
Je vous écoute dans la voiture tout à l'heure, comme nos auditeurs. On parlera du point météo tout à l'heure, le résumé de l'actualité, ma chère Céline.
Oui, exactement. Et tout de suite, à 8h58.
Europe 1. Orange.fr.
La météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Mon cher Laurent Cabrol, on s'habille comment ce matin?
Avec on essaie de trouver, de parer les neigeuses qui sont quand même assez nombreuses maintenant, mais elles sont de faible intensité. Alors vous couvrez parce qu'il fait froid, avec le vent qui souffle cette petite bise, l'impression de froid, le ressenti est encore plus important. Donc vous couvrez parce qu'il fait froid, vous vous abritez de cette neige qui en général est mêlée à la pluie ou alors elle est de faible intensité, comme je l'indiquais, hormis l'Isère ou vraiment dans le nord de l'Isère où là vraiment nous avons parfois du 15 à 20 cm. Mais partout ailleurs, la pluie se transforme en neige et la neige en pluie. En ce qui concerne l'avenir, jusqu'à midi, vous risquez encore des chutes neigeuses. Dans l'après-midi, elles seront beaucoup moins nombreuses, en particulier sur la capitale, mais il y en aura encore un petit peu sur la capitale. Mais ailleurs, ça va cesser. Et puis, les régions à l'abri, ce sont les régions qui bordent l'Atlantique. Partout ailleurs, encore un peu de pluie.
Merci. À tout à l'heure.
On revient sur les moments forts de cette matinale, Nikos Aliagas.
D'abord, cette dernière information, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, demande une gouvernance intérimaire pour Renault, alors que son patron Carlos Ghosn reste en garde à vue ce matin à Tokyo. Il est accusé de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux aussi. Pas de fraude fiscale identifiée toutefois en France, assure Bruno Le Maire. Mais chez les salariés de l'usine Renault de Flins, en région parisienne, c'est la consternation. Écoutez, c'était dans le journal de 7h.
Nous, on fait des efforts de notre côté. En permanence, toujours plus de travail avec moins de monde. Et après, ce qu'on voit sur ce qu'il fait sur les primes d'intéressement et tout ça, où elle diminue. Et résultat, on s'aperçoit que lui, il encaisse, mais il le dit même pas, quoi. C'est inacceptable, hein, de notre part.
Il a redressé la barre de Renault, Nissan. Mais à côté de ça, ça n'empêche que ce qu'il fait là actuellement, c'est pas correct. C'est juste dégueulasse.
L'autre information de cette matinale, c'est le blues des maires de France. Leur congrès annuel s'ouvre aujourd'hui à Paris, mais l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Un sur deux dit ne pas vouloir se représenter en 2020, comme Laurence Le Duévea, maire de Saint-Pierre-Quiberon dans le Morbihan. Son témoignage, c'était à 7h20, dans Europe 1 va plus loin.
J'ai 1147 euros par mois. C'est beaucoup d'investissement humain. Et c'est une mission qui nous prend minimum 40 heures semaine, voire 60. Quand vous avez beaucoup d'obstacles devant vous, à un moment donné, vous n'avez plus la force, vous êtes lassé. Et alors que vous pouvez avoir de belles idées, avoir un enthousiasme débordant, être idéaliste, vous pouvez être cassé dans de telles conditions.
Et puis des altercations ont eu lieu ce matin entre des gendarmes et des gilets jaunes sur le périphérique sud de Caen. 4 d'entre eux ont été interpellés, les opérations sont en cours, le périphérique sud reste fermé près de Caen. Et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, durcit le ton ce matin, dénonçant la dérive totale du mouvement en pointant une radicalisation et un très très grand nombre de blessés. Fin de citation. Ce sont des propos qu'il a tenus ce matin chez nos confrères de France 2. Voilà pour l'essentiel de la matinale. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe du 7-9, la rédaction, les techniciens, les journalistes, les reporters. Merci Céline Dacosta.
Merci à vous Nikos.
Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Si vous êtes en voiture, soyez prudents. Gare à la neige ou aux intempéries. Prenez soin de vous et à demain.